Hey, bon midi Québec. Bienvenue en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Votre nouvelle émission de l'heure du lunch depuis hier sur les ondes de Boulevard 102.1. Ça nous fait un immense plaisir d'être avec vous. On était comme des fourmis à préparer cette émission-là. Il y a de l'actualité rien qu'en masse aujourd'hui. La coroner Gayane Gamel qui a déposé son rapport. On va évidemment parler rapport sur cette fillette à Grimby qui est décédée en 2019 de mauvais traitement. Donc, c'est clair qu'on en parle. On va parler de la commission Galant. On va également parler de Nordvolt. On a Lambert Drainville qui va être là pour une première fois, compté de 13 heures. Ruba Gazal va être avec nous également, co-porte-parole de Québec solidaire aux alentours de 12h30. On veut parler entre autres avec Ruba Gazal des prières dans les rues. Qu'est-ce que QS en pense de ces prières-là de plus en plus fréquemment faites à Montréal? Est-ce que ça s'en vient à Québec? Comment QS se positionne? On sait le positionnement de la CAQ qui veut passer une loi pour les interdire. Le PQ est pour la loi de la CAQ. Donc, comment QS se positionne? On va parler de tout cela avec Ruba Gazal. Pascal nous a préparé un bon dossier également sur, justement, tout ce qui a entraîné le décès de la fillette, c'est-à-dire la commission Laurent, le rapport de la coroner aujourd'hui, Gamel. Mais avant ça, vous le savez, on commence et on se lance directement avec...
Le caucus. Boulevard. Le caucus. 102.1. Voici Antonin Iaccarini.
Pascal CV, Antonin Iaccarini, format caucus, comment allez-vous ce midi, mesdames?
Comment mal aller? En tout cas, comment manquer de job? Ça peut pas arriver.
Puis vu qu'on est un peu workaholic, ben on est heureuse.
On s'en parle constamment.
Et voilà, ça va très, très, très bien, justement. Et là, dans le caucus, je l'ai parti rapidement parce que faut pas perdre de temps.
Non, pas de temps.
On a des choses à jaser. Trois sujets importants à jaser. Antonine et... Comme je suis très courtois avec les mesdames, je vais commencer dans l'ordre que tu me les as envoyés. C'est-à-dire, on commence tout d'abord avec la commission Galant, mais on veut regarder ça sur un angle différent. Le travail des oppositions et surtout le travail du Parti libéral du Québec, c'est une première sortie pour Pablo Rodriguez hier dans la hot room de l'Assemblée nationale. Bon, ça m'a pas nécessairement charmé. Je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé.
Écoute, honnêtement, pour un homme qui a autant d'expérience politique, c'était ardu. Mais c'est connu, hein, quand un député ou un élu a travaillé à Ottawa sur la colline parlementaire, ils font un saut quand ils arrivent à Québec. C'est pas du tout la même ligue en termes de journalistes, là, la meute. On peut pas s'en sortir avec une petite phrase creuse, un petit slogan, puis on passe à un autre appel. Les élus sont très accessibles. Puis, tu sais, des fois, évidemment, les journalistes vont se plaindre qu'ils sont passés par la porte en arrière, qu'ils refusent des entrevues, etc. Mais on a des élus qui sont quand même très accessibles. Donc, quand on arrive d'Ottawa, où c'est très différent, où on est très communiqué de presse à 15 heures, puis bonjour, puis on
c'est
se crompe pas.
C'est plus cadré. Les gens, les journalistes ont moins la possibilité de revenir sur une question. C'est là, ils poussent pas comme on pousse ici au provincial.
Ça pousse moins. Il y a aussi, historiquement, avec le passage de Stephen Harper comme premier ministre, ça a été très, très resserré. C'est resté comme ça sous Trudeau.
C'est une ambiance Québec, parce qu'en politique municipale, moi, pour couvrir les points de presse en politique municipale, les journalistes sont gossants. Ouais. Ça pose la question. Ça n'a pas la réponse, ça relance la
Absolument.
Question jusqu'à temps que ça ait la réponse. Donc, c'est une ambiance journalistique Ville de Québec?
Absolument. C'est vraiment dans le même style. Puis des fois, par exemple, si c'est une conférence de presse qui est plus organisée, là, c'est une question, une sous-question par journaliste. Puis des fois, quand la question n'a pas été répondue, ben, les journalistes vont avoir une certaine solidarité entre eux. Ils vont la reposer, la question. Il y a un effet de meute sur les collines parlementaires ou à l'hôtel de ville, où il y a une espèce de solidarité qui s'installe. Et Pablo Rodriguez a quand même goûté à cette médecine-là hier. Là. Lui s'en allait parler de la SAC, donc de sa clique. Hier, le Parti libéral a demandé que Geneviève Guilbeault et François Bonnardel soient sortis du Conseil des ministres, trouvaient qu'ils ne méritaient plus de faire partie du Conseil des ministres avec ce qui s'est passé dans les révélations de la commission Galant. Et a aussi demandé une tutelle pour la SAC, mais pas une tutelle gérée par le gouvernement, mais par une entité externe.
une firme externe. Mais ça, mon chef dérangé était contre ça.
Absolument. Puis, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un faux pas de la part de Pablo Rodriguez ou du Parti libéral si, par exemple, on considère que mon chef dérangé n'avait pas la bonne position. Mais là, il y a une incohérence entre le député qui fait vraiment un super bon travail, qui est reconnu par tout le monde depuis le début de la commission Galant et du dossier Ça clique, mon chef dérangé, député libéral, qui lâche pas le morceau. Et là, tu as un nouveau chef, Pablo Rodriguez, qui vient d'arriver et qui change un peu la position qui était portée par Monsef Deragi. Et bon, ça a créé des questionnements aussi chez les journalistes pendant ce point de presse dans ce qu'on appelle le « hot room ». Parenthèse, le hot room, tu sais, tantôt, je parlais d'une conférence de presse, organiser une question de sous-question. C'est pas comme ça que ça se passe, un hot room. C'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Les journalistes posent des questions à l'infini, dans le désordre. Si tu veux, tu peux reposer une question à la fin. Puis, dans le fond, le ministre ou l'élu va quitter quand il est tanné. Tu sais, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et il s'est fait brasser. Pablo s'est fait demander aussi pourquoi il n'y avait pas la même position que Monsef Deragi. Puis, on voyait quand même qu'il y avait un petit malaise.
Et Monsef face, était juste derrière.
Oui, comme une petite plante verte. Il avait fait une petite intro avant.
Oui.
Mais pendant que M. Rodriguez parlait, le visage de Monsef Deragi était... Il regardait l'infini. Là. Il avait le regard un peu dans l'infini. Là. J'entendais comme une petite chanson de Simon & Garfunkel dans ma tête là, pendant que je regardais son visage. Il n'avait pas l'air très content.
Et ce matin, on a eu Monsef Deragi en entrevue, justement, parler de la commission Galant. Et moi, je me suis permis de lui poser des questions concernant le projet Nordvolt. Parce que hier, Pablo Rodriguez a envoyé sur X le tweet, là, j'appelle encore ça le tweet suivant, le dossier Nordvolt, l'échec total de François Legault. Mais pour la petite histoire, c'est François-Philippe Champagne, le ministre de l'Économie sous le gouvernement Trudeau, alors que Pablo Rodriguez est ministre du Transport, qui convainc Québec d'y aller avec Nordvolt. Voici la première réponse de Monsef. Vous allez voir dans l'extrait, je le relance. Il donne une deuxième réponse. Je veux qu'on parle de son niveau d'aisance après, mesdames.
Le montage financier du projet, les pertes sont des pertes québécoises, de l'argent des Québécois. Le fédéral, oui, il y avait l'intérêt de développer beaucoup de projets dans la filière batterie un peu partout au Québec. Il a répondu à l'appel aussi du gouvernement du Québec de François Legault. Et souvenez-vous.
Ouais, attendez, moi je vais refaire l'histoire avec vous. C'est François-Philippe Champagne qui parle au gouvernement du Québec à Pierre Fitzgibbon en lui vantant les mérites de Nordvolt. Et ce n'est pas le contraire, c'est une initiative du gouvernement fédéral Nordvolt. Et le Québec est embarqué là-dedans, pieds joints, a fait une des plus grosses erreurs de son histoire. Mais c'est une initiative du gouvernement Trudeau dans lequel Pablo Rodriguez était ministre des Transports à ce moment-là.
Oui, écoutez, c'est facile de dire que parce qu'il était ministre du Transport d'un gouvernement, qu'il est responsable. Et le premier responsable, c'est celui qui a signé le chèque pour notre vote, qui a payé pour le terrain. C'est M. Legault, c'est M. Fitzgibbon qui nous ont vendu ce projet comme le projet du siècle, mais on n'a rien vu d'ailleurs, on a tout perdu.
Mais Sam, je l'ai déjà senti plus solide, moi, Monsef Deragi.
Je ne pense pas qu'il est de très bonne humeur cette semaine, Monsef Deragi, parce que j'ai l'impression que c'est fait briser son élan. Il y avait toute la place. Son chef était absent là, dans les derniers mois, il faut le dire. Et il y avait une course à la chefferie avant, donc il y avait beaucoup d'espace. Là, tu as un chef qui arrive et qui arrive avec ses boulets, ses casseroles. Parce que Pablo Rodriguez, il a beau dire que tout ce qui s'est passé avant n'existe pas, ben il arrive quand même avec le bilan Trudeau sur les épaules. Donc, tu as bien fait de le souligner. Et il a mal expliqué parce que il aurait pu te répondre plus clairement en disant que le fédéral est allé chercher beaucoup plus de garanties hein, que le gouvernement du Québec. Et il perd moins de plumes dans cette aventure-là que le gouvernement du Québec. Donc, bon, bref, il n'avait pas relu son question-réponse sur Nordvolt où il n'avait pas préparé très bien cette question-là.
Mais le fédéral fait toujours ça parce que même dans le dossier du tramway, c'est sous facture que la ville va être remboursée alors que le gouvernement du Québec injecte de l'argent pour partir le projet.
Ben c'est ça. Donc, le gouvernement du Québec qui perd plus de billes là, dans cette histoire-là. Moi, ce qui me frappe aussi par rapport à la relation entre Pablo Rodriguez et ses députés, c'est qu'il arrive comme ça avec toute son expérience, avec certains boulets, mais on pourrait penser aussi que son expérience va être un point positif. Pendant le point de presse hier, là, c'était comme son premier point de presse à l'Assemblée nationale. il n'était pas très fluide. Là. Je veux juste dire, tu sais, puis là, c'est sûr, on n'a pas les images, on est à la radio, mais il regardait beaucoup ses feuilles et j'y voyais un mauvais théâtre, là, un petit peu.
On l'écoute.
Alors, si François Legault nous dit aujourd'hui qu'il a pris en même temps que vous, que nous, à regarder la TV, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, ça veut dire qu'il n'est pas en contrôle. Ça veut dire qu'il contrôle absolument, absolument rien. S'il l'a appris avant, s'il le savait...
Les intonations.
Ça, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il a participé lui-même à l'opération de camouflage. Et ça, c'est grave.
Grave.
Très, très grave. Merci.
Pascal, ça te convainc, ça?
Honnêtement, c'est sûr que ça a été pratiqué. Tu sais, tu l'entends, ouais. Les intonations. Il y a quelqu'un qui est passé en arrière, un expert de communication.
Oui, c'est pratiqué dans le miroir, là.
Mais il s'est pratiqué. Comme quand tu jouais aux Sims quand tu étais jeune, puis tu lui faisais pratiquer sa façon de prendre la parole en public.
Très,
là.
Très grave.
C'est grave. Puis après ça, t'as ton...
Mais je veux juste dire, là, on n'a pas l'image, mais il regardait sa feuille pendant que
c'était
ça. Ah
oui, clairement.
C'est comme... pas ressenti, puis ça, c'est dangereux, le manque d'authenticité.
Ouais. Puis après ça, il y a eu la période de questions, parce qu'il a passé son message, on a bien compris. Il y avait les titres qu'il voulait là, dans les journaux, tout a bien été. Mais la période de questions, il s'est fait brasser, notamment sur des questions complexes pour le Parti libéral. Et là, je pense à la laïcité, mm-hmm. Les prières de rue.
Oui.
On lui a demandé des détails. Et c'est pas toujours facile pour les libéraux sur cette question-là, mais encore moins pour M. Rodriguez, qui a un petit peu de difficulté à aller plus loin que la phrase de communication d'introduction.
Exactement. Puis on sait également qu'il vient du parti de Justin Trudeau, là, qui prônait le multiculturalisme.
Et qui finance la contestation judiciaire de notre loi sur la laïcité, projet de loi 21.
T'as entièrement raison. C'est très, très, très bien vu. 418-971-1021 pour réagir, parce que je suis certain que le prochain sujet va vous faire réagir. Les fameuses prières de rue. Hier, je t'ai envoyé ça. Jean-François Lisée, qui, sur la plateforme X, envoie à 5h02 regarder les prières de rue à Montréal. Et là, c'est un groupe islamiste qui est en train de prier dans la rue. Et il montre des images à Rome, à Toronto et en France. Et il dit que ça s'est fait au même moment dans les quatre villes. Ceux qui ne croient que ce n'est pas organisé... Hashtag bienvenue dans la naïveté.
Mm-hmm, absolument. Puis il se fait reprocher, M. Lisée, et d'autres personnes qui dénoncent les prières de rue, de partager des images de Rebel News, notamment, parce que c'est souvent les sources. Hein, ils suivent beaucoup ce dossier-là. Et c'est un média qui est controversé. Et là, le débat, c'est est-ce que c'est un vrai enjeu ou c'est pas un vrai enjeu? Puis tout ça arrive aussi dans un contexte où le gouvernement caquiste est dans la chenoute avec la commission Galant. Donc, c'est facile pour les détracteurs de la CAQ, il y en a beaucoup en ce moment, de crier à la diversion politique. Donc, est-ce que c'est un vrai enjeu ou pas? Moi, j'aime pas ça quand on dit qu'un enjeu est un faux enjeu. Si ça existe, après ça, on peut le prioriser, on peut trouver qu'il y a des choses plus importantes. Mais les faux dilemmes, là, d'aller dire, ben, pendant que les écoles tombent en ruine, on parle de prix. Moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. Donc, il peut y avoir plusieurs enjeux qui sont importants mm-hmm. en même temps. Et ça nous amène à parler de la laïcité comme un enjeu plus large. Cet automne, cette session parlementaire qui, on ne sait pas à quelle date elle va commencer, c'est le 15 septembre, supposément, on verra si c'est toujours le cas. La laïcité va prendre beaucoup de place cet automne pour plusieurs raisons. Il y a trois raisons principales. La première, c'est que la question de la laïcité, ça demeure très, très populaire chez les Québécois. Okay? Sondage après sondage, environ 75% des Québécois appuient le projet de loi 21, la laïcité en général comme concept, mais aussi l'élargissement de notre loi sur la laïcité. Donc, ce qu'on voudrait, c'est d'aller encore plus loin.
Et par élargissement, t'entends là, justement le fameux voile porté, exemple, par les éducatrices en garderie ou les enseignantes qui est interdit. Là.
Il y a un rapport qui a été déposé par Maître Rousseau et Mme Pelcha là, la semaine passée qui fait une série de recommandations. Il y a le ministre de l'Éducation qui veut faire certaines choses dans les écoles. On a parlé effectivement des services de garde. Et il y a un appui qui est toujours très fort pour ça. C'est pas 100% des Québécois. Il y a des gens qui sont contre, qui sont vocaux, évidemment. Puis on pourrait penser que c'est juste les personnes âgées, les plus vieilles générations ou les gens de région, mais c'est quand on regarde les segments, les tranches d'âge et les régions, il y a quand même un appui qui est assez fort toujours au Québec. C'est très imbriqué dans notre culture au Québec. Mais là, quand on parle de prière de rue, on parle d'espace public. La laïcité, c'est quelque chose qui est lié à la machine étatique. C'est le gouvernement, nos institutions. Là, quand on tombe dans l'espace public, ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous proposer concrètement pour limiter ce phénomène-là, les gestes de provocation qui dérangent beaucoup en ce moment, des prières tonitruantes devant les lieux de culte d'autres religions notamment, des fois liées avec des propos haineux. Évidemment, il y a le conflit à Gaza qui vient tout s'entremêler à travers tout ça. Est-ce qu'on va interdire les processions de prêtres entre une église et un autre lieu? C'est très, très compliqué, donc hâte de voir les propositions concrètes. La deuxième raison pour laquelle ça va être important, la laïcité, bien, la CAQ est toujours au pouvoir, pas très populaire, mais toujours au pouvoir, et le PQ est premier dans les sondages. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est probablement une surenchère. Puis déjà, avec les prières de rue, on a vu, il y avait une petite guéguerre, là, ces médias sociaux. C'est moi qui l'ai proposé en premier. Non, c'est moi, je l'avais dit le 2 décembre 2023.
C'est moi qui va frapper le plus fort.
Exactement. Donc, on voit qu'il va y avoir cette espèce de surenchère. Puis troisièmement, puis je t'en ai glissé un mot quand tu parlais du gouvernement Trudeau et de la laïcité et de M. Rodriguez. Notre loi sur la laïcité est challengée en ce moment devant les tribunaux. Pas sur le fond des choses comme telles, mais ça a quand même un lien. En fait, ce qu'on conteste du côté des groupes qui ont contesté notre loi, c'est qu'on a utilisé la clause dérogatoire de manière préventive. Pourquoi on utilise la clause dérogatoire dans le cas de la loi sur la laïcité? C'est qu'on contrevient à la Charte des droits et libertés du Canada et on a le droit, entre guillemets, de le faire. La clause dérogatoire, elle est là pour ça. Hein. C'est un outil qu'on a. Mais là, on dit qu'on l'utilise trop. Et on l'utilise avant même les contestations judiciaires. Donc, c'est ça la cause qui est devant les tribunaux. Mais si le tribunal, la Cour suprême, décidait qu'on était dans le tort, ça pourrait frustrer beaucoup les Québécois parce que ça veut dire que ça limiterait notre manière, en fait, notre capacité d'agir sur des questions comme la laïcité. Et je rappelle que les gens veulent un élargissement, mais aussi sur des questions de la langue française qui sont super importantes au Québec. On va parler beaucoup de laïcité cette année.
T'es au PQ, tu souhaites-tu justement que ça soit, que la Cour suprême tranche que le Québec n'a pas le droit pour dire « Hey, c'est le temps de devenir souverain? »
Mais je trouve que c'est un peu inconfortable pour la CAQ. Mais ils sont confiants. Le gouvernement est confiant. Le ministère de la Justice est assez confiant, gagner toutes les étapes. Mais si la Cour suprême devait dire non, vous n'aviez pas le droit d'utiliser la clause dérogatoire pour votre loi, et là, je le mets entre parenthèses, votre loi discriminatoire, raciste, parce que c'est ça que le reste du Canada pense de nos lois sur la laïcité puis notre vision du vivre ensemble, mais c'est du pain béni pour le PQ.
Clairement.
Parce que là, on se dit, on n'est plus capable de légiférer. Nous, notre Assemblée nationale, même si vous votez une majorité de députés qui vous promettent des choses, on n'est plus capable de légiférer, de faire des lois sur ces questions-là. On ne pourra plus protéger notre langue, on ne pourra plus pousser pour avoir plus de laïcité. Donc, c'est sûr que ça fait le jeu des souverainistes.
Exactement. Kim qui nous écrit, bon midi, gang, pas question de prier dans la rue. Dans mon pays et mon M-O-N majuscule, dans nos institutions, on doit enlever les signes religieux. Et c'est pas un signe religieux, prier dans le chemin, là, donc prier sur la rue. Alors, merci Kim et continuez à réagir au 418-971-1021. Pascal, Antonine, je vous fais écouter une portion de la conférence de presse de Géane Gamel, la coroner qui s'est penchée sur le dossier de cette mort tragique d'une fillette à Grimbay en 2019 qui a souffert de maltraitance, où elle blâme à peu près tout le monde et on en parle par la suite.
Il faut savoir que je ne suis jamais très mal à l'aise de nommer les choses. Puis j'aimerais ça vous dire la DPJ, mais tout le monde l'a échappé. C'est pas compliqué. Le médecin l'a échappé. Le milieu éducatif l'a échappé. La DPJ l'a échappé. Tout le monde a échappé cet enfant-là dans le système. Fait que c'est tout le monde doit porter son bout de blâme dans cette situation-là.
Antonine, t'en penses quoi?
Elle a absolument raison, puis j'ajouterai la police aussi.
Oui.
OK. D'abord, juste dire, Géane Gamel, c'est un visage très connu, hein, puis elle a commencé son intervention en disant « je dis les choses telles qu'elles sont », elle nomme les choses. Puis il faut juste pour rappeler les gens, peut-être que c'est un nom qui leur dit quelque chose, mais c'est aussi la coroner qui avait fait le rapport sur le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, cette femme autochtone, ça avait fait énormément de vagues à l'époque quand elle est décédée. C'est aussi la même coroner qui avait déposé le rapport sur ce qui s'est passé dans certains CHSLD pendant la COVID. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui brasse la cage, qui dit les choses. Et là, ce qu'elle nous dit aujourd'hui comme message, c'est bien, cet enfant-là, elle aurait dû être entendue. Okay? Le système l'a complètement échappé, mais un système, c'est fait par des personnes aussi. Puis il y a différents rouages à travers ce système-là. Et la petite fille est passée à travers chacun de ces rouages-là. Et ça s'est terminé par un décès tragique. Elle a souligné, elle a rappelé que les policiers sont venus à 24 reprises au domicile de cette petite fille. Donc, moi, je veux bien la DPJ, Puis je veux juste rappeler, la DPJ, c'est une organisation dans laquelle on a principalement des travailleuses sociales, souvent très jeunes, inexpérimentées, qui viennent de sortir un peu de l'école, un roulement énorme, énormément d'arrêts de travail. C'est dur aussi de travailler à la DPJ. Imaginez aller voir la misère humaine jour après jour après jour. Et quand on échappe un enfant, eh bien, on se fait reprocher, on se fait lapider sur la place publique. Il y a des poursuites
également.
Il faut
vivre avec ça. En plus, c'est émotionnellement et personnellement.
Donc, il faut que les autres rouages du système fassent aussi leur travail. Puis dans ce cas-ci, on parle aussi d'un policier qui a interrogé la petite fille pendant 8 minutes. Je m'excuse, en 8 minutes, une petite fille de cet âge-là, coachée par son père pour ne pas parler, ça ne peut pas s'ouvrir. On a fermé le dossier, on est passé à un autre appel.
Ça prend des fois une heure à établir le lien de confiance avec
un
enfant.
Une heure, des jours même.
Puis, tu sais, dans les langages, des fois, en DPJ, puis avec des intervenants, puis en psychologie, ce qu'ils se rendent compte, c'est que le vocabulaire pour l'enfant a été changé. Fait que juste apprendre à décoder ce qu'on a initié chez un enfant, à appeler ça sa petite fleur, mettons, son sexe, là, versus les vrais mots. Mais là, essayer de trouver de quoi elle parle, c'est quoi le
ça
jeu.
Ça prend pas 8
c'est
minutes,
c'est
super
difficile. Puis tu sais, dans les exemples que tu as donnés pour Madame Maître Jeanne Kamel, je comprends pas qu'on oublie ce cas-là, mais Rosalie Gagnon,
ben oui,
la jeune fille, le bébé qui avait été retrouvé dans une belle ordure,
oui,
j'en parlais avec Max
ici
matin, c'était elle aussi qui présidait le rapport de coroner. Cette femme-là a les deux pieds dans les rapports de TPJ depuis
connaît.
Toujours, elle s'y connaît. C'était ici, ça, Rosalie Gagnon, c'était à Charlebourg.
Et elle dit, oui, la DPJ, elle ne dit pas que c'est pas la faute de la DPJ, mais il y a eu toute une commission, hein, la commission Laurent sur la DPJ, donc beaucoup de recommandations, puis Pascal, tu vas en parler un peu plus en détail tantôt, mais il y a tout un pan qui avait été un peu ignoré. Et c'est pour ça qu'elle a beaucoup de recommandations pour le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation, Santé, Services sociaux, mais aussi la Justice, parce que ce père-là aurait dû être arrêté. Il aurait dû être enquêté. Il aurait dû être inculpé. Jamais ça n'aurait dû se passer. Puis je m'interroge toujours aussi, parce qu'au Québec, on compte toujours beaucoup sur le gouvernement pour tout, là. Puis on a un filet social qui est important, puis on ne veut pas échapper aucun enfant, et c'est normal. Mais je m'interroge aussi toujours sur notre responsabilité individuelle, sur comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Puis il y a à peu près 100 000 signalements par année à la DPJ. Donc les gens le font, ils signalent, c'est intégré au Québec.
Énormément. Moi, dans mon rôle de gestionnaire de camp de jour, on avait toujours une formation par la DPJ avant chaque été, justement, pour pouvoir identifier, faire les signalements. Et on voyait les statistiques et c'est en hausse constante, les signalements à la DPJ. Donc, les gens sont vigilants.
Les gens sont vigilants. Par contre, je pense qu'on est moins prompt à appeler la police. Puis là, j'insiste beaucoup sur les policiers. Mais si vous voyez un enfant qui a des bleus partout ou qui traîne tout seul dans la rue, vous pouvez appeler les policiers aussi. C'est parce que la DPJ, elle est submergée aussi. Et il y a un autre élément que je trouve important de souligner dans la question de la DPJ, c'est que tous les signalements sont un peu traités de manière égale. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es un enseignant, puis là, tu vois un enfant jour après jour arrive à l'école avec des vêtements qui sont pas propres, l'enfant lui-même est pas propre, il n'y a rien à manger, bien, on peut faire un signalement à la DPJ. Mais si un enfant fait est vraiment dans une situation épouvantable, terrible, maltraitance, violence, bien, c'est aussi la DPJ. Et je me demande à un moment donné si cette grosse machine de DPJ, qui est une machine importante, puissante aussi, c'est toujours la voie à suivre. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un triage très, très tôt où les cas plus léger, c'est-à-dire que ce n'est pas des parents qui maltraitent leurs enfants, c'est des parents peut-être qui sont mal équipés.
Un peu de négligence, manque d'outils.
Oui, manque d'argent. Là, la pauvreté est vraiment évidemment liée à tout ça.
Mais qui sont entourés d'amour, ces enfants-là, malgré tout.
Ben, quand les parents auraient besoin d'aide, en fait, ben, là, c'est plus les organismes familles qui doivent entrer en jeu, une bonne coordination pour qu'on les sorte un peu du système plus lourd de la DPJ, un système aussi qui peut être punitif, où les enfants, des fois, sont retirés de leur famille, etc. Donc, il y a toute une réflexion à faire avec la DPJ.
Scinder en deux, c'est ce que j'entends que tu dis, la DPJ, puis j'achète ça parce que tu parles des organismes, j'ai travaillé longtemps dans le domaine communautaire, et en effet, si on donnait plus de ressources à nos organismes communautaires, puis je vais penser à toutes les maisons de la famille qui existent dans chaque arrondissement, ces gens-là, justement, font de la pédagogie avec les parents.
Il faut les outiller, leur donner plus de ressources pour dégager la DPJ, pour qu'ils puissent justement se concentrer sur les cas plus lourds, les enfants vraiment qui vont être dans le système. Puis il y en a des enfants maganés au Québec. Là. Des fois, on se fait un peu des films là, qu'on est au paradis des enfants au Québec.
Mais tu avais sorti les statistiques par rapport à ça, justement.
Oui, puis bon, taux de maltraitance au Canada, on parle de 4 enfants par 1000 habitants. J'avais envie de le comparer avec les États-Unis parce que moi, je suis une grande fan de documentaires et j'écoute beaucoup de true crime. Et j'écoute beaucoup de documentaires sur des cas de famille, des trucs un peu glauques. Notamment, je pense à Gabriel Fernandez aux États-Unis, là, en Californie, là, qui est décédé. C'est un jeune enfant qui est décédé sous les mauvais traitements de sa mère et de son beau-père. Il y a un documentaire qui vient de sortir, je pense, sur Ruby Frankie, là, qui était une influenceuse mormone aux États-Unis qui maltraitait ses 6 enfants et qui est maintenant condamnée à la prison. Et aux États-Unis, c'est 2 fois plus élevé, ce taux-là de maltraitance. Et le filet social est complètement différent. Et j'ai l'impression des fois qu'il y a une tolérance peut-être plus élevé parce qu'il y a tellement de nouvelles. Tu sais, aux États-Unis, c'est énorme, beaucoup plus de gens. Les services sociaux ne sont pas toujours publics en passant. Là. La Floride, par exemple, les services sociaux sont privés, ce qui est un petit peu spécial quand tu y penses. Là. Même si tu es quelqu'un de droite, services sociaux, me semble. En tout cas, tu profites avec ça, ça me rend un peu mal à l'aise. Au Québec, je pense qu'on a quand même cette sensibilité qu'un enfant qui est décédé, qu'on a échappé, c'est un enfant de trop. Quand la fillette de Granby est décédée, ça a vraiment mis le Québec sans dessus-dessous. On a vraiment... Le temps s'est arrêté pendant un instant, puis il y a eu cette commission importante. Je pense qu'on n'accepte pas qu'il n'y ait aucun enfant qu'on échappe et que ça vient comme nous frapper en plein visage quand ça arrive. Puis je trouve aujourd'hui que ce rapport de la coroner vient compléter un peu le portrait et vient nous rappeler qu'il reste énormément de travail parce que... Puis encore une fois, Pascal, tantôt, tu vas aller un peu plus dans les détails sur la commission Laurent, mais ça couvrait beaucoup ce qui concerne la DPJ, beaucoup, beaucoup plus. On a pointé davantage du doigt la DPJ, mais il y a tout le filet autour aussi qui est aussi important.
Mais dans ce que fait, en fait, il y a un travail de main de maître qui s'est mené aussi entre Mme Jeanne Kamel puis Mme Régine Laurent auparavant. Les deux travaillaient sur des dossiers quand même connexes. Pourquoi on a eu la commission Laurent? C'est à la suite du décès de la fillette de Granby qu'on a lancé ça en 2019. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Puis oui, on pointait la DPJ, mais on pointait beaucoup plus la structure. Comme quoi, elle est mauvaise. Ça fait que ça recoupe ce que tu dis, Antonine. Oui. Selon moi, elle est à revoir. Puis on parle souvent des intervenants, les gens sur le terrain. Ça paraît boboche. Puis on dirait qu'on c'est le jour de la marmotte. Mais je me questionne sur la hiérarchie aussi. Parce que des gestionnaires, t'en as besoin pour faire arriver des dossiers, pour être la courroie de transmission entre ce que le terrain dit. Mais la gestion au niveau du gouvernement, c'est beaucoup transformé en un patronat. Alors, est-ce que ton gestionnaire doit être automatiquement comme un patron et sentir que la décision est vraiment la meilleure par rapport à cette personne-là versus ceux qui sont sur le terrain puis dit voici quelle solution ce serait intéressant d'amener puis après ça que le gestionnaire les fait arriver en tranchant quand même sur certaines choses, mais on sent pas beaucoup d'écoute là, de haut en bas, là, dans cette hiérarchie.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que les intervenantes qui travaillent à la DPJ, vraiment, à chaque fois qu'il arrive un événement comme celui-là, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de départs qui en découlent. Ouais. Donc, ça vient empirer le problème.
Ça crée beaucoup un stress chez les intervenantes qui, justement, comme tu le dis, il y a trop de cas pour le nombre de personnes qu'à l'heure actuelle. J'aime beaucoup ta recommandation de dire on envoie des cas plus légers dans les organismes communautaires. Je pense que ça serait une clé à aborder sans l'ombre d'un doute. On a un texto, même le juge l'a échappé. Elle a laissé à la garde du père malgré les signalements de violence.
Absolument.
On va faire écouter justement un extrait tout à l'heure là, de la coroner Gamel qui en parle. C'est ça le caucus Iaccarini, les amis. C'est du lundi au jeudi à partir de midi. On a fait le procès de Pablo Rodriguez. On a convenu pourquoi la CAQ s'attaquait aux prières de rue. Et on a terminé avec un dossier tellement émotif que ce décès de cette jeune fillette à Granby et le rapport de la coroner. On va en parler un petit peu plus tard justement avec Pascal CV. En attendant, on part en pause. Et par la suite, c'est Ruba Gazal, co-porte-parole pour Québec solidaire qui va être avec nous. On va parler notamment de la commission Galant de Nordvolt et des prières dans les rues. Restez avec nous, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. On en jase le midi.
Je sais pas si avec le retour à l'école, le retour au travail, vous cherchez quelque chose à manger chaque jour ou quelque chose à mettre dans les lunchs aussi, puis vous êtes au-dessus de cette tâche-là à la maison. Ça vous importune, vous êtes tanné, vous êtes vraiment écœuré finalement de faire à manger puis de penser à des repas. Bien, Fou de la bouffe existe pour ça. Des repas prêts à manger, des saveurs inégalées, c'est livré partout dans la province de Québec. Alors, peu importe où vous êtes, c'est à votre porte que c'est livré. C'est trois étapes simples pour bien manger sans cuisiner. Choisir vos repas. Il y a un menu hebdomadaire qui change constamment, qui est là pour vous et qui s'adapte à vos besoins, à vos goûts particuliers ou à ceux de vos enfants. Il y a le fait de recevoir directement à la maison. Puis la troisième étape, c'est de le réchauffer pendant 3 minutes au micro-ondes. Après, tu manges. Il n'y a pas d'abonnement. Tu n'es pas obligé de renouveler ça à chaque semaine. Tu choisis quand tu veux en recevoir. Ce sont des repas qui sont généreux, des portions satisfaisantes avec, entre autres, 200 grammes de viande par repas de format régulier. La fraîcheur est garantie. On travaille avec des produits de qualité. Les boîtes sont isothermes aussi, c'est toujours frais. Et les formats sont variés, donc tu peux choisir parmi small, régulier, méga 16, donc pour toute la famille, pour le souper ou le dîner. Il y a des ajouts que tu peux faire à tes boîtes aussi. Si jamais tu as envie de juste faire ça pour ton épicerie, c'est faisable. On a des collations, on a des breuvages. Le concept parfait. Tu peux te faire livrer plus de 21 repas par semaine si tu as besoin. Tu peux t'en faire livrer 6 aussi. Fou de la bouffe, c'est un endroit par excellence pour éviter de te casser la tête puis avoir de bons repas, comme entre autres une soupe vietnamienne au bœuf, des poitrines de poulet barbecue whisky, le mac and cheese au porc effiloché, le saumon style Tao avec des légumes de saison, des tacos au halloumi et sauce crémeuse à l'avocat. Ce sont des exemples que je vous nomme, mais c'est vrai. Alors, c'est trouvable sur le site de foubouffe.com. Foubouffe.com, va faire ton tour.
Je veux faire avancer ma carrière.
Puis à la commande à l'auto. Puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
OK, oui, on en jase à Boulevard 102.1. Votre nouvelle émission du midi avec Jeff Fortin, Pascal CV. Donc, on a du plaisir avec vous. 418-971-1021 pour réagir. Vous êtes énormément à le faire. Et on adore. Et je lis justement une réaction de Dina. C'est rare que j'entends parler de mon métier aussi bien dosé. Merci d'une éducatrice du Centre Jeunesse.
Et voilà. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'en parler. 418-971-1021. Si vous voulez écrire, là, même de façon anonyme, vous êtes la courroie de transmission en ce moment.
Exactement. Et on est chanceux, moi et Pascal CV, de compter sur Antonine Iaccarini du lundi au jeudi dans le caucus Iaccarini. Pierre-Luc qui mentionne « Excellent votre nouveau segment. Vous êtes devenu la radio que je cherchais depuis si longtemps. Pouvoir parler d'actualité et de politique en critiquant sans devenir négatif et frustrant pour l'auditoire. » Bien, c'est en plein la mission de Boulevard 102.1, Pierre-Luc. Merci beaucoup. On veut faire de l'actualité, on veut faire de l'affaire publique, on veut faire de l'opinion, mais de façon dosée et de façon à ce que vos oreilles ne saignent pas et que vous continuez à nous écouter avec passion. On va aller rejoindre une personne, une dirigeante politique qui n'a pas froid aux yeux et qui est toujours prêt à venir discuter avec nous à Boulevard 102.1. C'est la co-porte-parole de Québec solidaire, Mme Ruba Gazal. Mme Gazal, comment allez-vous ce matin?
Très bien, merci beaucoup, M. Fortin, pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Ce matin, il va falloir que je m'habitue que j'anime le midi maintenant puis que je ne suis plus juste co-animateur le matin. Mais ça, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Mme Gazal, pas le choix. Je commence avec la commission Galant, passage de François Legault et de Martin Koskinen hier, passage des Voilettes ce matin. Qu'est-ce que la co-porte-parole de Québec solidaire retient de tout cela?
Je retiens que c'est un triste spectacle que M. François Legault, son entourage, offre à la population. Alors que les gens, ils ont de la misère à arriver, même avec une ou deux, trois jobs pour pouvoir payer leur épicerie, pour payer leur loyer. Hein, on a vu l'augmentation des prix des loyers pour payer leur hypothèque. Ils en arrachent, ils payent des impôts, ils sont pas capables d'avoir les services de santé, d'éducation auxquels ils ont droit. Et en plus de ça, il y a un gaspillage éhonté, là, quoi, un dépassement de coûts de un demi-milliard de dollars de leur argent dans un fiasco, ça clique. Et on voit là, le premier ministre dire « Je n'étais pas au courant de rien. »
Oui, le croyez-vous, le premier ministre, quand il dit ça, « Je n'étais pas au courant de rien. » Croyez-vous à cette version-là de François Legault?
C'est difficile à croire. C'est difficile. Moi, je trouve ça difficile à croire qu'il ne le savait pas. Maintenant, on est obligé de le croire sur parole puisqu'il le dit. Il le dit sous serment. Est-ce qu'il l'a oublié? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces ministres, eux, ça a été démontré par la commission. Ça n'a pas été le cas avec François Legault, que ce soit Geneviève Guilbeault, François Bonnardel, qui disaient tout le temps qu'eux autres, on leur a menti. C'est les fonctionnaires, c'est la SAC qui leur a menti, puis qu'ils n'étaient pas au courant avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Ça a été démontré qu'ils étaient au courant avant, puis ils sont juste passés à autre chose. Même François Legault l'a reconnu. Ils auraient dû poser plus de questions, puis ils l'ont pas fait. Mm-hmm. Donc, c'est un spectacle désolant qu'on offre à la population québécoise alors qu'elle fait face à plein de crises et dont le gouvernement devrait s'occuper. Puis pendant ce temps-là, on a ce fiasco-là devant nous.
Maintenant, on parle de prorogation de l'Assemblée nationale pour permettre à la CAQ de se réorienter, d'y aller d'un nouveau conseil des ministres. Le temps qu'ils prennent connaissance de leur dossier, on parlerait peut-être d'un retour après l'action de grâce. Est-ce que c'est un outrage à la démocratie de procéder de cette façon-là?
Pour nous, à Québec solidaire, et on le dit, puis je le redis ici devant vous, fermer le Parlement, hors de question. Nous, là, les députés, les 12 députés de Québec solidaire, on est prêts à travailler. Et donc, le 16 septembre, on est prêts. C'est là que la session, normalement, devrait être ouverte. On est prêts. Et M. François Legault, je le mets au défi de venir à l'Assemblée nationale puis de répondre à nos questions. Moi, pendant tout l'été, oui, j'ai eu des vacances, mais je suis quand même allée à la rencontre.
Vous allez lui poser quoi comme question? Vos premières questions seraient quoi pour François Legault?
Des coupes en éducation. Hein? Bernard Drainville, il a pris tout le monde partait en vacances, puis il a dit, tiens, on va couper en éducation. Ça a créé un chaos. Il y a eu une mobilisation des parents. Moi, je suis très proche des parents de gens dans le système d'éducation qui se sont mobilisés. Et plus tard, il est allé remettre de l'argent, mais ça enlève pas du tout le chaos qu'il y a dans nos écoles en ce moment. Fait que je lui poserai des questions. Monsieur François Legault, vous dites que l'éducation, c'est une priorité, puis c'est la raison pour laquelle vous êtes en politique. Qu'est-ce que vous répondez à l'enfant en difficulté qui n'est pas capable d'avoir sa psycho-éducatrice parce qu'elle a été coupée, puis finalement, elle va revenir plus tard, puis à temps partiel? C'est un chaos. C'est ça que je poserai comme question sur la crise du logement, sur l'itinérance. Il y a plein de choses, il y a plein de crises auxquelles on fait face et le gouvernement et François Legault doivent répondre. Il avait tout l'été pour nommer ses ministres. D'ailleurs, c'est très rare qu'un premier ministre annonce son intention de faire un remaniement aussi à l'avance. Il l'a fait quoi? On n'était même pas encore en vacances fin juin. Il avait tout l'été pour faire son remaniement. Mm-hmm. Là, si lui est en retard puis il n'est pas prêt, ben c'est pas aux Québécois de payer le prix.
Mais est-ce que vous pensez que le remaniement est une bonne chose? C'est quand vous êtes dans l'opposition, vous voyez ça venir. Souvent, c'est une stratégie politique beaucoup plus de surface et d'apparence, peu importe le parti en place à l'aube d'une campagne électorale comme ça. Vous en pensez quoi, vous? Parce qu'il y a le discours de l'opposition habituel, mais un remaniement du type, vous n'allez pas pouvoir frapper sur les mêmes têtes sur lesquelles vous frappez depuis longtemps. Vous allez peut-être vous faire accuser de frapper sur des nouvelles têtes qui prennent de nouveaux mandats, donc il faut leur laisser du temps. Et peut-être même, vous allez peut-être accuser la CAQ d'être en superficialité là-dedans. Ça serait quoi votre position?
C'est du théâtre. C'est une mise en scène qui est faite par le gouvernement. Peu importe qui il va nommer, c'est le même gouvernement. C'est pas quelque chose d'individuel. C'est le même gouvernement qui prend des décisions. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas aucun ministre qui peut aller de l'avant dans ces dossiers. Ils ont peut-être un carré de sable, une certaine liberté, mais ils peuvent pas faire des grands changements ou prendre des grandes décisions sans que le premier ministre ait accepté ou que l'argent soit disponible. Et ça, c'est des décisions qui viennent en haut lieu. Donc, peu importe qui on place, c'est le même gouvernement, c'est la même équipe. Donc, ils peuvent pas se cacher derrière le changement des personnes. C'est la CAQ qu'on a devant nous. Donc, nous, on se laisse pas démonter par le théâtre et la mise en scène que nous fait François Legault parce qu'il est désespéré.
Prière de rue, Mme Gazal, vous en pensez quoi? Nos auditeurs sont en furie de voir que ça prend de l'ampleur à Montréal. Ils ont peur que ça s'en vienne à Québec. Ils prônent la laïcité à travers la province. Quel est le point de vue de Québec solidaire par rapport aux prières de rue?
Écoutez, je vous parle maintenant de tous les échecs de François Legault. Il y a Northvolt qu'on n'a pas parlé, il y a Saclic.
Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient, Northvolt, mais je veux qu'on parle de prière de rue.
Exact, mais il y a tout ça qui s'en vient. Et François Legault, évidemment, il sort sa carte de la diversion habituelle en disant qu'il y a une crise nationale de prière de rue. Moi, je veux juste qu'on s'entende sur quelque chose. ça existe, il y en a. Moi, j'habite à Montréal depuis très longtemps, j'en ai jamais vu personnellement. Ça met les gens, ça met certaines personnes mal à l'aise et c'est tout à fait leur droit. Mais la situation est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus délicate que ce que la CAQ et le Parti québécois, d'ailleurs, veulent laisser paraître en disant qu'il y a une crise nationale. Moi, j'invite vos auditeurs et auditrices à lire le papier d'Isabelle Haché de cette semaine, qui, elle, est allée à la rencontre de ces gens-là, puis qui apporte des nuances intéressantes.
Moi, mais pour ou contre du côté de Québec solidaire pour les prières de rue?
Bien, en fait, les lois actuelles, tu sais, moi, en ce moment-là, une personne ne peut pas bloquer la rue pour faire des prières, comme elle ne peut pas bloquer la rue à n'importe quel moment pour après ça faire une manifestation ou faire du yoga ou que sais-je. Elle ne peut pas faire ça. Les lois actuelles permettent au gouvernement d'agir. François Legault a déjà en main, légalement, juridiquement, les moyens d'agir quand les prières de rue, si les prières de rue ne respectent pas la loi actuelle, il n'y a pas besoin...
Mais admettons une prière de rue devant la basilique Notre-Dame qui n'est pas dans la rue, qui est sur un terrain vacant, mais qu'on vient le faire devant une basilique catholique avec une prière de rue de religion islamique. Vous en pensez quoi? Pour ou contre?
C'est ça. Là, vous parlez d'un moment, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, à tous les jours, à toutes les fins de semaine, partout. Il y a un moment où il y a eu cette prière de rue et Isabelle Haché est allée à la rencontre. Moi, je ne les ai pas rencontrés. Est allée à la rencontre et c'était fait dans le cadre d'une manifestation qui était déjà prévue et approuvée par la police. Donc, il n'y avait rien d'illégal, illégitime. Maintenant, je vous le dis, s'il y a des gens qui se sentent mal à l'aise avec ça, personnellement, ils ont tout à fait le droit. C'est légitime. Après ça, moi, il y a plein de choses que je vois dans la rue qui me mettent mal à l'aise. Est-ce qu'on va sortir une loi à chaque fois? Ce qui est important, c'est qu'on respecte le cadre légal. Et si cette prière-là était une entrave et ne respectait pas la loi, il aurait fallu intervenir et les lois actuelles le permettent. Et comme je vous dis, il y a beaucoup plus de nuances. François Legault, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de cacher ses échecs en faisant diversion puis en faisant parler tout le monde d'une crise nationale des prières de rue. Moi, je suis dans un quartier central, dans mon comté de Mercier. Je regarde en bas, ce que je vois, ce n'est pas des prières, c'est des itinérants qui sont couchés par terre. C'est ça la crise à laquelle on fait face en ce moment au Québec.
Oublions la partisanerie pour cette question-là. Ruba Gazal, vous êtes au sein de Québec solidaire. Vous prenez la parole, vous faites entendre. Vous faites quand même rayonner votre parti d'une certaine manière parce qu'on vous tend les micros depuis un bout. Si on oublie la partisanerie, la découpe des partis politiques, cet enjeu-là dont on vient de jaser les prières de rue, vous allez comprendre peut-être ma question. Si vous ne la comprenez pas, faites-moi répéter dans d'autres mots parce que j'aimerais vraiment une réponse à cette question-là. Actuellement, il y a des commentaires parfois déplaisants à entendre. Il y a une séparation de certaines cultures qu'on voit à Québec, qu'on voit à Montréal. C'est pas toujours une inclusion qui est facile. Est-ce que de mettre un règlement, vous pensez que ça va faire en sorte de pas trop attiser la haine de l'autre, la peur de l'autre et peut-être aider à un vivre ensemble commun? Et je tombe vraiment pas dans une technicalité à vouloir brimer l'autre. Je me demande si on n'est pas en train de juste régir la façon de vivre en société et de mélanger les cultures actuellement en se respectant tous et chacun, en mettant une délimitation.
Bien, c'est quand on vit en société, même si on est tous de la même culture puis qu'on a les mêmes origines puis les mêmes racines, il y a des règles qui existent. Et ces règles-là sont fondamentales. C'est pas chacun qui vit tout seul dans son coin puis qui veut pas parler avec personne. Il y a des règles qui existent qui régissent notre façon de vivre en société. Et c'est tout à fait sain et c'est même nécessaire pour que moi, si j'ai une liberté que je veux exprimer, c'est important qu'elle vienne pas brimer l'autre. Puis vous parlez à quelqu'un qui, je veux dire, moi, je suis québécoise, totalement, entièrement québécoise, mais je suis quand même née à l'étranger. Je suis née au Liban, dans une famille palestinienne. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. Je parlais pas un seul mot de français. Et j'ai appris, puis j'ai construit mon identité québécoise, pas en restant tout seul avec mes parents à parler arabe. Là. C'est ma langue maternelle. C'est cette langue-là que je parle quand je suis dans ma famille. Et je l'aime et je la préserve. Mais j'aime aussi le français. Puis ça, comment je l'ai appris? C'est parce qu'il y a eu cette vie en société où est-ce que mes parents auraient même pas pu, s'ils avaient voulu m'envoyer dans une école anglophone ou musulmane ou peu importe, ils auraient pas pu. Ils étaient obligés, à cause d'une loi que j'adore, la loi 101, et moi je suis une fière enfant de la loi 101, qui a obligé mes parents, par chance, et moi je suis très contente de ça et eux aussi, que j'aille dans une école francophone québécoise, puis que j'apprenne pas uniquement la langue, mais que j'apprenne aussi la culture. Mm-hmm. Moi, j'ai appris le français en chantant des chansons de Félix Leclerc. Je suis arrivée en 88, il venait de mourir il y a pas longtemps. Je le savais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je chante « C'est peut-être un petit bonheur » et tout ça. Et ça, c'est parce qu'il y a une loi qui nous a obligés à faire ça. Et notre professeur, je me rappelle, il nous obligeait, c'était avant les réseaux sociaux, à regarder la télé. Ben moi, j'étais rendue déjà bien, mais c'est pas grave. Je comprenais beaucoup mieux le français de Passe-Partout parce qu'il était simple, il parlait
donc vous comprenez.
J'ai appris le français là. Pourquoi?
Vous comprenez ces règlements-là qui sont mis en place peut-être pour délimiter la place d'une culture?
Ben c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Ces lois-là existent et je suis d'accord avec ça. Je peux pas maintenant, moi, fermer la rue. Ça existe en ce moment juridiquement. Et François Legault le sait très bien. Il le fait très bien. Mais comme il veut faire diversion, comme il le fait tout le temps pour cacher ses échecs qui font qu'il y a du gaspillage, c'est un gouvernement de comptable là, qui le dit. Regardez le gaspillage. C'est des milliards de dollars qu'on gaspille. On a un déficit historique avec un gouvernement de gestionnaire et de comptable. Moi, je suis comptable. Hein, j'ai ça en commun avec François Legault. J'ai un bac en administration des affaires, des HEC en comptabilité. J'ai déjà travaillé là-dedans et je sais compter. Et il y a un gaspillage éhonté de notre argent. Pendant ce temps-là, ils nous parlent d'une crise de prière. Oui, s'il y a des gens qui dérangent puis qui ne respectent pas la loi, il faut faire appliquer la loi. Il faut sévir. Et ces outils-là existent. Il y a des juristes qui nous l'ont dit, ils existent. Mais le gouvernement préfère ajouter une loi pour que ça soit la discussion de l'année et de la semaine et faire oublier tous ces échecs. Mais moi, je peux vous dire qu'en cette année préélectorale, les Québécois ne sont pas dupes, puis ils n'oublieront pas qu'en ce moment, tout coûte extrêmement cher, puis le gouvernement gaspille notre argent.
Elle est co-porte-parole pour le Parti Québec solidaire. Elle souhaite faire son retour à l'Assemblée nationale le 16 septembre. On va suivre ça attentivement dans l'actualité s'il y aura prorogation de l'Assemblée ou non. Madame Gazal, merci beaucoup pour votre temps sur les ondes de Boulevard 101 aujourd'hui. Au plaisir de se reparler bientôt.
Merci beaucoup, à vous aussi, au revoir.
Merci, au revoir. C'était Ruba Gazal. On va en parler un petit peu plus en détail avec Lambert Drainville tout à l'heure. Je lui avais demandé d'écouter l'entrevue. Mais chose certaine, on n'a pas de positionnement clair de QS non. Par rapport aux prières de rue.
Non, j'entends beaucoup d'accord avec le fait qu'on positionne un règlement, mais un certain désaccord avec le fait que ça soit fait pour ça.
Exactement.
Peut-être pour un apport, que, ben, dans ce cas-ci, c'est religieux, là, à être exprimé. Là, si je peux le dire comme ça, j'ai l'impression qu'elle est d'accord avec le fait que certaines religions prennent une certaine place dans la société, mais aussi d'accord avec un règlement qui pourrait être mis en place pour avoir une délimitation.
C'est ça, mais elle revient au cadre légal actuel. Elle ne veut pas, ce qu'on en comprend, créer une nouvelle loi pour ça. Alors, ça reste un positionnement qui
un
est
peu
flou. Puis en politique, quand t'es flou, tu parles à personne.
Mais tiens, en même temps, Québec solidaire n'a pas à se positionner de façon très accru en ce moment parce que c'est pas dans les intentions de vote, dans les plus hautes au Québec en ce moment. Ils pourraient perdre énormément d'adhérents. Je pense que le fait d'être flou leur sert en ce moment.
Oui, peut leur servir.
Mais dans la façon de prendre la parole, ça semble tranché. C'est juste que nous autres, toi et moi, on aime ça creuser puis dire non, ça c'était flou finalement.
C'est ça. J'ai appris que Ruba Gazal a un bac en administration, un baccalauréat en administration, donc elle est une comptable comme François Legault. Et là, Pascal, je sais pas si tu l'as commencé avec cette nouvelle-là, mais il y a un autre comptable à la tête du Canada, c'est Mark Carney. Puis il parle d'austérité, Mark Carney, par rapport au prochain budget où on fera des coupes dans la fonction publique. On va avoir Gabriel Giguère qui va venir nous en parler justement demain de l'Institut économique de Montréal. Mais sinon, quoi surveiller dans l'actualité?
Oui, beaucoup de choses en termes de dossiers. C'est sûr qu'on va reparler de tout ce qui concerne la fillette de Granby un peu plus tard à l'émission. Sinon, ce qu'on peut dire dans les rapports actuels, c'est Sam Ahmad qui revient dans l'actualité.
Ben oui!
Avec
des images
de New York pour illustrer Québec. On pensait qu'après Descaries, c'était terminé parce qu'on avait pris des images de Descaries.
Non, on a eu l'Ontario pour la fête du travail.
Exact, mais on a pris Descaries pour illustrer le trafic ici à Québec. Là, on se dit, c'est à Montréal, ça peut nuire un peu dans les conversations. Ensuite, il y a eu l'autre frasque de la fête du travail. Cette fois-ci, ce sont de nouvelles erreurs qui s'ajoutent aux candidats de la mairie qui ont été dénichés sur les réseaux sociaux de son parti encore une fois. Là, on est rendu à éplucher ça parce qu'on nous en donne du stock. La page Facebook du parti dirige les internautes vers deux mauvais liens, puis il y en a un qui inclut celui du site Internet de la formation politique. Et ce qu'on voit, ce sont des images de New York, entre autres, là, pour parler de projets de transport structurant ici. Il faut savoir, peut-être, que ça a été fait au moment où on a eu une consultation at large, puis toutes ces frasques-là étaient divulguer et opérer au même moment, mais il aurait peut-être fallu aller gérer ce qu'on avait fait auparavant pour pas que ça retourne dans l'actualité et que ça ajoute en fait à un peu ce qu'on se trouve ridicule, mais en
ben
même
oui.
temps déphasé.
Ben vraiment, à New York pour le district Québec, pour aider les bénévoles de Leadership Québec qui travaillent très fort sur les médias sociaux, Google, j'ai tapé Ville de Québec et j'ai cliqué sur l'onglet Images. Oui. Et là, on me donne des images de la Ville de Québec. Puis si vous voulez être sûr que vous êtes à la Ville de Québec, là, il y a le Château Frontenac.
Ça aide.
On peut pas se tromper avec le Château Frontenac.
Ils pourront pas prendre ces images-là parce qu'il y a des droits d'auteur puis des droits là-dessus. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que ça peut aider à savoir qu'est-ce qu'est Québec, visuellement
si
parlant.
Si tu veux montrer Québec, pense oui. Château Frontenac.
Sinon, avec les drones qu'on connaît aujourd'hui, je suis certaine dans leur entourage, ils peuvent aller capter des images faciles.
Ça devrait bien aller.
Mais c'est ça, c'est qu'on voit à la mention du centre-ville et de Sainte-Foy une série d'images dans la vidéo, puis c'est des gratte-ciels qui ne représentent pas Québec du tout. En fait, c'est plutôt New York qui est présenté.
Comment on fait pour mélanger les gratte-ciels à Québec qui sont à peu près inexistants et les gratte-ciels de la ville de New York?
Je pense que, écoute, sérieux, quand j'essaie d'expliquer la situation, je me suis dit qu'ils se sont juste dit « on va prendre des images de gratte-ciels ». Ça va être ça qu'on va mettre. On va prendre des images de bouchons de circulation, puis ça va être ça qu'on va mettre. Puis on peaufinera par la suite. On veut pas investir là-dedans. On garde l'argent dans nos coffres. On forme un nouveau parti. On va avoir ce financement-là pour d'autres choses, j'avoue. Mais dites-le comme ça. Peut-être d'aller de l'avant en disant « on n'a pas voulu dépenser pour des images.
C'est
on
ça.
S'excuse. On sait que c'est un peu erroné ce qu'on vous présente.
Ah, » oui,
mais on voulait des gratte-ciels, puis ce sont des gratte-ciels. Ça, c'était libre de droit, puis on le fait. Mais honnêtement, ça commence à être un peu ridicule parce que pour sa maman, sa défense depuis le début, c'est de mettre ça sur les épaules de ses bénévoles et non d'expliquer la situation comme étant « hey, c'est un détail. »
Mais là, quand il y a une erreur à chaque jour, à un moment donné, ça peut pas juste être la faute des bénévoles.
Ben, c'est parce qu'on a pris position en disant « oh non, ça nous dérange. » Et là, en disant « ça nous dérange, ce type de frasque-là », on continue des éplucher et de les faire rayonner.
Yes.
Sinon, donc, tout le monde aurait su pour la SAAQ, clic, sauf le premier ministre. Vous savez, il y avait son témoignage dans les dernières heures et il a témoigné à la commission d'enquête publique pour la commission Galant. C'est un peu fou parce que ce qu'on dit, c'est que ces deux différents secrétaires généraux du gouvernement qui savaient, les ministres et les cabinets savaient, c'était dans les médias. Il y avait un déploiement chaotique, mais François Legault serait resté dans l'ignorance quant à l'exposition des coûts de la SAQ et l'explosion aussi de cette enveloppe budgétaire-là. Il y a Yves Ouellet qui témoigne aujourd'hui. Il dit qu'on n'a jamais parlé de dépassement de coûts, d'ajout simplement d'enveloppe pour mener à terme le projet. Il aurait expliqué que les coûts du projet, ça a explosé, oui, mais durant la campagne électorale de 2022 et à aucun moment, le document révélant des dépassements de coûts lui aurait été présenté. C'est qui Yves Ouellet? C'est l'ancien secrétaire général du gouvernement. C'est pas rien. Haute position quand même au sein de la CAQ. Également, si on revient ici pour Leadership Québec.
Oui.
Nouveau candidat.
Hugo Langlois.
Hugo Langlois, l'animateur qui sera candidat pour le parti de sa maman. Vous savez, c'était présenté aux dernières
élections. Oui, aux dernières élections fédérales. Puis honnêtement, ça n'a vraiment pas bien été pour lui dans Beauport-Limoilou. Les conservateurs étaient vus comme étant le parti qui pouvait prendre cette circonscription-là. Finalement, c'est les libéraux avec Steve Lavoie, l'ancien PDG de la Chambre de commerce et d'industrie. Hugo Langlois a terminé troisième derrière le Bloc québécois.
Tu sais, à ce moment-là, moi, ce que je disais en onde, c'était-tu un déficit de CV, de curriculum vitae?
Ouais.
Tu es un gars qui était à la Chambre de commerce, là, tu sais qu'il est ferré, qu'il y a des négociations, que la politique, il connaît, puis il a sûrement travaillé avec le provincial puis le fédéral, peut-être à être personne interposée et autres. Écoute, c'est une assurance. Là. Et peut-être qu'on s'est dit, ben nous, on a besoin d'un candidat qui va être capable de mener à terme, pas quelqu'un qui commence nécessairement en politique. Souvent, on déplore que c'est beaucoup de la communication maintenant versus, bon, une réelle qualité de politicien qui en a vu et d'homme d'affaires et tout ça. Donc, c'est peut-être ça qui a miné Hugo Langlois au fédéral. Chose certaine, il se présente maintenant avec Leadership Québec. Leadership Québec! Ouais. Avec sa maman! et c'est trois nouvelles candidatures, en fait, qu'on a ajoutées et celle de Hugo Langlois, qui est animateur radio-télé depuis quelques années, a été officialisé dans le district de Vanier-du-Berger, donc Les Rivières.
Ça va être une occasion de voir si la notoriété a un impact dans la campagne municipale, parce que Hugo Langlois va se coltailler contre Clément Boudreau de l'équipe Québec Forte et Fière dans Vanier-du-Berger. Clément Boudreau, c'est qui? C'est un administrateur de la ruche à Vanier, bien connu dans le milieu communautaire, dans le milieu du logement social. Donc, est-ce que c'est le gars de terrain Clément Boudreau qui va l'emporter ou la notoriété avec Hugo Langlois? Ça va être très intéressant à suivre la bataille dans cette circonscription-là. Une petite dernière pour la route?
Oui. Est-ce que tu as vu la politique fédérale en ce moment attire l'attention avec Mark Carney parce qu'on parle de budget?
Oui.
Il y a des affaires qu'on tentait de laisser présager au fédéral avec la candidature de Mark Carney, c'est ça allait être en rien ce que Justin Trudeau nous avait offert non, côté économie.
L'économiste.
Et là, ce qui est sorti, écoute, c'est un mot très fort qui a coûté très cher autrefois au provincial à Philippe Couillard, et c'est le mot austérité.
Oui.
On ramène ce mot-là, qui est un genre de Voldemort, qui est un mot qui est honnêtement jamais utilisé en politique depuis non. parce qu'il fait peur. Et Ottawa prévoit un budget d'austérité cet automne. Je crois que ça va tomber un peu en deux craques aujourd'hui, mais c'est extrêmement important. Et pour Mark Carney, on ne craint pas d'utiliser ce mot-là. On l'a répété. Le mot qui commence par A, austérité, oui. a été utilisé pour décrire le prochain budget fédéral. Peut-être que ça va aider parce qu'on sentait pour Justin Trudeau qu'on dépensait sans compter. Ça a été quelque chose qui a aidé les conservateurs à avancer énormément en campagne électorale. Est-ce qu'on y voit une stratégie politique ou c'est vraiment ce qu'on va faire? Mais on dit que c'est un budget d'austérité et d'investissement en même temps. Il a eu une mêlée de presse, Mark Carney, aujourd'hui. Ça a été avant la retraite de cabinet de ses ministres. On veut préparer la rentrée parlementaire d'automne. Et c'est possible, il veut une discipline assurément économique à ce niveau-là. Puis je te rappelle, petit clin d'œil, qu'on a nommé hier un directeur parlementaire du budget par intérim et ça a été fait. On a demandé à Jason Jacques, au poste de directeur parlementaire, de s'occuper justement d'un mandat de 6 mois par intérim.
Exactement. Donc ça va être à suivre. Est-ce qu'on aura une austérité au niveau du gouvernement fédéral? On sait, Luc Godbout nous avait annoncé la semaine dernière que le déficit pourrait aller jusqu'à 92 milliards de dollars. Luc Godbout, c'est un fiscaliste très reconnu de l'Université de Sherbrooke. Alors, ça sera à suivre comme dossier. À la météo, 23 degrés actuellement, 26 degrés avec 30 % de possibilité d'averse, 26 degrés généralement ensoleillé pour demain, et puis intermittente, 21 degrés pour vendredi. Il est présentement 13h01. On fait une courte pause à Boulevard 102.1. On en jase le midi. Et par la suite, c'est l'ami Lambert Drainville qui sera au bout du Zoom pour nous parler, entre autres, de la commission Galant et aussi de ce fiasco Nordvolt Québec qui retire tous ses pions de cette entreprise suédoise. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. On en jase le midi, nouvelle émission avec Jeff Fortin et Pascal CV. On a beaucoup de plaisir à parler d'actualité avec vous. Vous avez énormément de plaisir à interagir avec nous. 418-971-1021. Je sens que le sujet des prières dans les rues ne vous laisse pas indifférent. David qui écrit « Moi, ma religion, c'est la musique. Je peux pas aller jouer de la guitare électrique ou du drum n'importe où dans la rue ou devant un édifice public. » Ben, c'est la même chose pour la religion. Faites ça à l'endroit prévu pour. En effet, ça se joue dans un studio ou, David, des fois dans des bars ou dans des salles de spectacle. Qu'on aime aller à des spectacles rock ici à Boulevard. Je vous rappelle également, on est sur twitch.tv/blvd/fm, disponible sur la web radio blvd.fm et vous pouvez réécouter justement les meilleurs moments de nos émissions. Et aussi, on est disponible sur l'application Boulevard 102, App Store et Google Play Store. Il est présentement 13h08, c'est l'heure d'aller rejoindre un chroniqueur que vous allez entendre avec nous deux fois par semaine. Un homme que j'adore avec son franc-parler et qui est toujours, justement, à l'affût de l'actualité. Lambert Drainville, comment ça va, mon chum?
Salut, Jeff. Salut, Pascal. Comment vous allez?
Salut.
Très content de me joindre à l'émission.
Eh oui, on va super bien. Lambert, je pense que tu as écouté notre entrevue avec Ruba Gazal. Qu'est-ce que tu en penses, justement, de Ruba Gazal et surtout son positionnement sur les prières de rue?
J'en pense évidemment que les prières de rue, c'est un enjeu qui est très polarisant. Voilà. C'est un classique de wedge politics. Puis tu vas avoir Québec solidaire puis évidemment le gouvernement de la CAQ qui vont être diamétralement opposés sur cet enjeu-là. Je pense que la vérité se trouve un petit peu entre les deux. Là, peu importe le discours que l'un ou l'autre de ces partis-là va prendre, évidemment, par rapport à Mme Gazal, là, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu là. Pour ce qui est de la CAQ, c'est de dire que, justement, les prières de rue, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et à laquelle il faut s'attaquer avant que ça devienne un enjeu qui, justement, prend plus de place. Moi, je pense que pour vivre à Montréal, bien honnêtement, je n'en ai jamais vu. J'ai jamais passé devant une prière de rue et j'y habite quand même depuis un bon moment. Fait que la vérité doit se situer entre les deux. Là, il y a certainement eu peut-être, il y en a peut-être plus qu'il y en avait avant. De là à dire que c'est un enjeu sociétal sur lequel le gouvernement doit mettre du temps et mettre dans le haut de sa liste de priorités. Je pense qu'on rentre dans ce cas-ci beaucoup plus dans la catégorie de « ça va mal à la choppe »
pour le gouvernement de la
CAQ et, et on cherche des enjeux pour aller marquer des points.
C'est cool. J'aime beaucoup ton opinion, toi qui as fait partie justement de plusieurs caucus parlementaires. Lambert, on saute dans le vif du sujet avec la commission Galant. Tu veux nous faire entendre des extraits. On commence en ouverture par le mea culpa de François Legault.
Autant le...
Lambert Drainville, l'essentiel du problème vient des dirigeants de la SAAC. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de François Legault?
Ouais, ben on s'en est un petit peu parlé la semaine dernière, là, puis on a un autre extrait peut-être qu'on pourra faire jouer aux gens plus tard là, sur la chaîne de responsabilité. C'est
ouais, les fameux quatre
appelé,
niveaux
là.
De responsabilité, là.
Exact. En commençant par, tu sais, dans la chaîne de responsabilité au niveau gouvernemental, au haut de la pyramide, tu as évidemment le bureau du premier ministre, son directeur de cabinet et le secrétaire général qui est le manitou de toute la fonction publique. Dans un deuxième niveau, tu as les ministres avec aussi leur propre directeur de cabinet et leurs sous-ministres à eux pour leurs différents ministères, leur branche de fonctionnaires. Dans un troisième temps, dans une société d'État ou parapublic comme la SAAQ, eh bien là, tu as le conseil d'administration qui est un petit peu le chien de garde, justement, des différents projets, des dépassements de coûts, de l'évolution des projets. Et finalement, tu as toute la direction de la SAAQ. Moi, je le vois un petit peu, la part de responsabilité, je la vois un petit peu dans ce sens-là. Si tu prends la pyramide puis tu la mets à l'inverse, ceux qui sont les deux mains dedans, les plus près de ces décisions-là, ce sont évidemment les dirigeants de la SAAQ. Et par la suite, plus on s'éloigne, ben, plus, je te dirais, la part de responsabilité de chacun de ces niveaux-là va en baissant. Donc, les deuxièmes, selon moi, qui sont responsables d'en être arrivés à un fiasco de cette envergure-là, c'est évidemment le conseil d'administration dans un deuxième temps après les dirigeants.
Ça, le conseil d'administration, Lambert, là, je trouve que dans la commission Galant, on l'a effacé assez rapidement. On parle des dirigeants de la SAAQ. On parle des ministres. Mais moi, pour siéger sur des conseils d'administration, là, notre responsabilité première, c'est de s'assurer que les finances de l'organisme aillent bien. Donc, ils ont complètement failli à leur tâche, le conseil d'administration.
Oui, puis on verra ce que le commissaire insère dans son rapport final. T'sais, la vérité, là, c'est que les quelques fois, en fait, ça a beaucoup plus fait parler lors du début des audiences. Conrad Sioui, ancien président du CA, était venu témoigner notamment. Tu sais, bien honnêtement, un chevreuil sur l'autoroute, ce conseil d'administration-là. C'est comme s'il n'y avait comme rien de plus à dire. Là, t'sais. Ils n'étaient pas là. Quand ils sont là à la commission à témoigner, ils disent qu'ils ne sont pas là. Quand on entend d'autres personnes, disons, se prononcer sur le travail qu'ils ont fait, ben, ce qu'ils disent, c'est qu'au final, ils n'ont rien fait. Fait qu'à un moment donné, je pense que quand tu n'as pas fait grand-chose...
Corrige-moi, mais on les paye, ces gens-là.
T'as été mauvais, ben voilà, t'as été mauvais, il n'y a rien à dire de plus.
Mais on les paye, ces gens-là, pour être sur ces conseils d'administration-là. Ils ne sont pas bénévoles comme moi qui a le patron Charlebourg, là.
Non, ils sont certainement pas bénévoles comme toi. Oh, patron Charlebourg, d'ailleurs, bravo pour ton implication.
Merci.
C'est une belle mission. Non, puis écoute, le PM a mis beaucoup l'emphase sur l'imputabilité. Hein? Mm-hmm. Quand même écorché ses ministres au passage, là, ne s'est pas défilé quand il parlait d'imputabilité, a parlé de l'imputabilité des membres du gouvernement, mais mettait d'abord et avant tout l'emphase sur l'imputabilité. On va devoir trouver une façon, bref, de rendre ces hauts dirigeants-là, ces conseils d'administration-là, qui, malgré qu'ils ne soient pas élus, demeurent payés par les fonds publics. Il faudra les rendre plus imputables. Moi, je pense que ça va être la grande conclusion de cette commission-là. Il faut trouver une façon à ce que ces gens-là soient plus imputables. C'est pas normal que tu aies des gens qui, plus que 10 ans, deux gouvernements, plusieurs ministres qui sont passés l'un à la suite de l'autre, que ces gens-là n'aient été absolument incapables de simplement avoir un plan B, un plan C, si jamais la mise en place du site Saclic finissait par vraiment être une catastrophe comme ça l'a été. Et là, ces gens-là perdent leur job, mais ils ont une sécurité d'emploi que leur garantit leur poste de haut dirigeant, se retrouvent finalement à juste être envoyés ailleurs. Ils les prennent de la SAQ, ils les envoient à Hydro-Québec, ils les envoient dans plein d'autres, à Investissement Québec, à la
chaise de l'incompétence.
Exact.
Tandis qu'au privé,
donné,
tu perds ta job.
Bon, t'es pas bon.
Quand tu es au privé, tu perds ta job, tu la trouves toi-même ta prochaine, on te repositionne pas. Lambert, on parle d'imputabilité. François Legault est un des premiers à dire ben moi, je vais mener ceci à terme, on va trouver qui est le coupable. Mais il se déchausse beaucoup par rapport à ses propres chaussures là-dedans, en se disant c'est pas moi, c'est vraiment ministre, mais encore là, point de personne. Comment on va faire? Ma question est super simple. Là. Qu'est-ce qui sera de l'imputabilité à faire pour la suite des choses?
Tu veux dire pour le premier ministre?
Ça va être quoi la solution?
Ben, moi, je pense qu'il n'y aura pas une solution, au même titre qu'il n'y a pas un ou deux responsables dans ce fiasco-là. C'est un paquet de gens étalés sur un paquet d'années. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui n'ont pas été vigilants, qui n'ont pas été diligents, qui n'ont pas posé assez de questions, qui se sont contentés de semi-réponses. Et comme je disais tantôt, ben, les quatre niveaux de direction, les quatre niveaux responsables de la gestion de l'État québécois, eh bien, ont tous leur part de responsabilité à un plus ou moins gros niveau. On verra quelles sont les grandes conclusions du commissaire Galland dans tout ça. Mais si tu veux parler spécifiquement du bureau du premier ministre, ben eux, moi, je pense qu'ils sont ils sont allés témoigner, mais je pense que dans la chaîne des responsabilités, comme on parlait plus tôt, autant qu'ils sont les premiers de la chaîne que dans la gestion de ce fiasco-là, je pense pas que c'est eux qui sont les grands responsables. Je pense que, bon, comme les ministres, il y a quand même eu des indices là, qui ont été envoyés au PM. Là. Il y a eu un courriel, un tweet de Mitch Garber a par la suite demandé à son attaché de presse, Evan Sauve, d'aller chercher l'information sur tout ce qui était le coût de sa clique. Après ça, il y a eu des articles du 98.5 qui parlaient de 69 millions de dollars supplémentaires en 2023. Après ça, dans Le Soleil, 39 millions supplémentaires. T'sais, il y a eu des indices qui auraient pu inciter le premier ministre à dire « Hey, c'est quoi là, cette affaire-là? Je peux-tu avoir le détail de ça? » Et il ne l'a pas fait. Alors, il n'est pas blanc, plus blanc que blanc, mais il n'est pas le premier, moi, dans ma chaîne, dans les responsables de ce fiasco-là. Puis il l'a admis lui-même, ça ne l'intéressait pas. Oui, M. Legault, là, ce qui l'intéresse, c'est Hydro-Québec, c'est la Caisse de dépôt, c'est l'Investissement Québec, c'est les portefeuilles économiques.
C'était Lord Volt, on va en parler dans quelques instants.
Il doit faire un sapristi de saut, par exemple, à quel point ce qui ne l'intéressait pas est devenu très intéressant, malheureusement pour lui.
Clairement.
Ouais,
là, j'ai l'impression qu'il s'y intéresse beaucoup plus.
Lambert, on écoute justement la remarque finale de François Legault hier à la commission Galland. J'ai toujours dit que des commissions d'enquête, des fois, ça donnait des rapports qui sont tablettés et qu'on ne suit pas par la suite. Mais je pense que peu importe le prochain gouvernement, l'imputabilité va devenir un mot de plus en plus en vogue au niveau gouvernemental et ça va juste être positif pour les citoyens et l'argent public.
Absolument. C'est une grosse remise en question de... T'sais... Où est-ce que va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Puis peut-être un certain wake-up call, si tu me permets l'expression, pour tous les gens impliqués à gérer l'argent des contribuables, de comme, hey, c'est pas normal. Là. Quand on parle de 10 millions de dépassements là, pour avoir été au gouvernement, 10 millions de dépassements, ça n'allumera pas un voyant rouge sur le tableau de bord. Mais là, on parle de montants qui sont quand même significatifs. Puis quand tu les additionnes, on parle d'au-dessus de 100 millions, d'au-dessus de 200 millions. Puis évidemment, là, au grand total, on est à 1,5 milliard. Il faut que ces gens-là soient conscients que c'est de l'argent durement gagné par les Québécois et qu'ils ont un devoir de l'investir le mieux possible et surtout pas de l'acheter par les fenêtres comme ce qu'on voit avec Saclic.
Lambert, toi qui as été dans le gouvernement, là, Mathieu Marcotte, qui est l'animateur du retour sur notre station, sur les ondes de notre station sœur, Week-end 91.9, dit souvent, on parle tellement de milliards à cette heure qu'on dirait que des millions, c'est plus rien. C'est tout ça qui arrive au gouvernement, tu sais, quand on parle de 100, 200, 300 millions, bof, c'est pas grave parce que je gère des portefeuilles de milliards de dollars?
Un petit peu. La vérité, c'est que oui, tu sais, tu gères des millions et des millions. Ça se compte toujours en millions. Fait que t'es toujours dans l'ordre des millions en termes de grandeur. Fait que des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Tu sais, à un moment donné, tu perds un petit peu le fil, tu sais. Puis on l'a vu dans d'autres dossiers, là, tu te rappelleras la subvention pour les Kings de Los Angeles, tu sais, c'était pas un gros montant.
C'est vrai, hey, juste 7 millions.
C'est ça, 5 à 7 millions. Ouais. Puis,
qui n'était pas nécessaire, qu'il serait peut-être venu sans ça même, puis qui était déjà financé au final. Tu sais, c'est épouvantable.
Ben, tu sais, il y a un petit peu de comme. Bon, il y avait deux choses dans ça. Il y avait le moment, là, on rentrait dans les négociations avec des centaines de milliers d'employés de la fonction publique à qui on obstinait de ne pas vouloir augmenter trop leur salaire à cause des finances d'État. Puis en parallèle, tu t'en vas financer des joueurs professionnels.
Puis tu te donnes une augmentation de 30 % aussi. Là. Il y avait tout ça dans l'air.
Il y avait tout ça, tu sais. Puis. Fait que, tu sais, ça, puis ce sont des symboles. Puis la politique, moi, je l'ai toujours dit, c'est un sport de symboles. Puis les Kings de Los Angeles, c'était un symbole d'à quel point le gouvernement peut être parfois déconnecté des besoins de la population. On a eu Nordvolt, qui est un bel exemple aussi d'un autre symbole où c'est un gouvernement qui se présentait comme les maîtres de l'entrepreneuriat, les maîtres de l'économie. On fait cette annonce-là de Nordvolt avec tambour et trompette. C'était le plus gros projet d'investissement privé industriel de l'histoire du Québec. Et là, ça fait patate. Saclic est un autre symbole, encore une fois, de problème de gouvernance, de problème d'usage des fonds publics, de problème d'imputabilité, comme on le disait. Et c'est ça qui fait mal. Ce ne sont pas juste est-ce que ce dossier-là a été bien géré ou pas. Ce sont devenus des symboles. Les gens associent ces dossiers-là à la performance du gouvernement. Et c'est pas pour rien que présentement la CAQ est au bas dans les sondages. Les symboles négatifs s'accumulent et sont extrêmement frappants.
Parlons-en de Nordvolt. Hier, on a décidé de se retirer complètement de ce projet-là à l'approche d'un remaniement ministériel du côté de la CAQ. Bonne décision, mais le mal est fait, je dirais ça comme ça.
Ouais, et puis écoute, faut pas... Entre toi et moi, il ne faut pas être un génie des communications pour comprendre la stratégie qui a été employée hier.
Attends une minute. Attends, c'est un mot qui commence par D, Pascal. Il y a un I après, un V. Diversion!
Oui, diversion. Puis la question se pose, Jeff, c'est-tu une stratégie de diversion pour camoufler la présence du PM à la commission Galant ou si la commission Galant est une diversion pour le écoute, le
hey, c'est-tu la preuve que ça va mal pour la CAQ, ça? Si on ben est écoute, rendu que non. Le passage historique du premier ministre à la commission Galant sert de diversion au projet de Nordvolt, c'est que là, ça va plus bien partout.
Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a l'expression qui dit « une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule ». Laisse-moi te dire que hier, c'était le cas et c'était voulu par les équipes de communication du bureau du premier ministre et des différents cabinets ministériels impliqués.
Ça, t'as aucun doute là-dessus. Là.
Ouais, non, il y a absolument aucun doute. C'était voulu. Quand tu te dis « ça va mal à la shop », ben, on va s'arranger pour que toutes les nouvelles... tu sais, à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Fait qu'on va toutes les mettre en même temps puis on va espérer que les deux viennent bouffer l'attention médiatique, s'auto-cannibaliser. Et ben le but de la CAQ dans tout ça, effectivement, c'est de passer à un autre appel le plus rapidement possible. On parlait la semaine passée, Jeff, de prorogation. On parlait du remaniement. C'est des choses que le gouvernement, qui sont en latence au gouvernement parce que c'est une façon pour le premier ministre de se donner un nouveau départ. Mais tant et aussi longtemps qu'on a les deux pieds dans la mélasse avec une jambe dans la mélasse de Nordvolt puis une autre jambe dans la mélasse de la commission Galland, bien, c'est difficile d'avancer. Fait que là, la commission Galland, les acteurs politiques sont passés, ont témoigné. Je pense que ça va s'éloigner tranquillement du gouvernement de M. Legault. Nordvolt, on vient de mettre la clé dans la porte hier et leur but à eux, c'est de sortir la tête de l'eau le plus rapidement possible pour essayer de se donner une chance, d'avoir une chance en 2026.
C'est pour nous, on essaie même d'y croire, puis on a la tête, le cerveau, les mains, tout ce que tu veux, au professionnel, même au personnel, parce que ça nous intéresse là-dedans. Les gens qui nous écoutent en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont surdosés, et ils vont retenir en finalité que ça sert à rien, puis finalement, les gens en politique, au ministère, puis même dans tout ce qui est gestion gouvernementale, il n'y aura jamais de conséquences, puis on dépense comme on veut l'argent des contribuables. Je ne suis même pas certaine que la rétention va se voir au niveau du contribuable dans l'intérêt qu'on donne à la commission Galland. Il n'y a plus aucune adhésion à ça, ce genre de commission-là. Les gens ont perdu espoir puis trouvent ça, somme toute, assez stupide qu'on puisse répéter qu'on ne s'en souvient pas pour essayer de s'en échapper. Assurément, il y a des choses qu'on ne se souvient pas pour vrai, mais vous comprenez la stratégie derrière ça. Les gens plus d'intérêt. On le voit au 88-971-1021 sur Twitch. On est tanné, on n'y croit plus, puis les pas de conversation sont fermés, là.
Ouais, ben, tu sais, j'en conçois, puis je pense que Jeff, on s'en parlait hier au téléphone. Je pense qu'on est une minorité, là, à suivre ça de très près. Moi, j'ai quand même pas mal de gens qui me textent, là.
Hey, moi, ma blonde qui n'était pas politisée, écoute avec intérêt la commission Galland.
Mais c'est-tu parce que tu y en as parlé? Puis là,
c'est sûr que là, t'es, puis elle écoute Boulevard 24 heures sur 24 et on est une radio d'actualité, donc c'est sûr que ça la met au courant. Ben oui, c'est né de ça. T'sais, quand t'entends ça, tu t'intéresses, t'entends des bons acteurs politiques comme Lambert Drainville, justement, sur les ondes de Boulevard 102.1. Ben là, c'est clair que t'es intéressé.
J'ai la tête qui passera plus dans la porte.
Ben, je le sais. Mais,
les gens qui nous écoutent, êtes-vous encore là-dedans? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait encore un pourcentage de règlements de comptes gouvernementaux pour la suite des choses? C'est une question qui est quand même importante.
Oui, bien, tu sais, bon, le rapport du commissaire va dresser les grandes lignes, puis après ça, tu sais, Pascal, il y a quand même des ministres qui doivent être stressés présentement. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas de conséquences, là, je veux dire. Geneviève Guilbeault était vice-première ministre, c'était la deuxième personne la plus importante au niveau de l'État. Je serais très, très surpris qu'elle le soit encore après le remaniement. Elle aura subi les conséquences. Moi, François Bonnardel, si j'étais lui, je serais stressé de son poste au Conseil des ministres. Le PM les a quand même écorchés hier en disant que les ministres des Transports sont responsables. A dit qu'il fallait de l'imputabilité. Ben moi, si je suis lui et que je veux envoyer un message, justement, que je vais être le premier à montrer l'exemple, je fais sentir ces conséquences-là.
Mais tu as été dans les corridors. Tu as été stratège politique, Lambert. Tu connais la politique pour toutes les raisons qui se valent dans ta vie. Mais est-ce que c'est-tu en surface de congédier un ministre ou de faire une démotion ministérielle? Est-ce que c'est en surface ou c'est vraiment l'épicentre du problème? Parce qu'on a l'impression que c'est plus dans la gestion, les gestionnaires en dessous, ceux qui travaillent au sein du ministère, les fonctionnaires.
Mais tu sais, c'est pour ça que cette commission-là est importante. Tu sais, je veux dire, elle va nous forcer à nous poser des questions puis à voir. Après ça, c'est au gouvernement d'agir. Tu sais, je te cacherai pas que M. Legault, il en avait parlé de l'imputabilité. Il était le premier à monter dans les brancards quand il était dans l'opposition puis dire ça n'a pas de bon sens, la gestion libérale, les manigances, les magouilles. Puis là, se retrouve lui-même 7 ans plus tard après avoir été nommé premier ministre, un peu dans des dossiers qui ont des odeurs assez similaires. Je peux comprendre les gens d'être désabusés. Mais que veux-tu? Moi, je reste positif puis je me dis, regarde, il y a eu la commission d'enquête, il va y avoir un rapport puis ce sera la responsabilité des gouvernements qui vont se présenter, des partis qui vont être en liste pour être le prochain gouvernement dans les élections qui sont dans à peine un an, les prochaines élections dans à peine un an, bien de dire, écoutez, nous autres, si on est élus, votez pour nous autres puis on va s'arranger pour faire le ménage dans ça. Je comprends les gens d'être un peu cyniques, mais moi, j'essaie de rester positif dans tout ça puis de me dire, ben écoute, il y a des gens quand même qui vont subir les répercussions de ça. Il y a quand même l'UPAC enquête quand même présentement là, mm-hmm. sur des gens. Là, fait qu'il peut y avoir des conséquences au niveau judiciaire, il peut y avoir évidemment des conséquences au niveau, comme on disait, là, du poste des ministres. Tu sais, ça fait mal quand même, là, Pascal. Imagine, là, t'es une personne comme Geneviève Guilbeault là, qui ouais, a été là depuis des années, qui a été une fidèle à de François Legault, qui a été au front pour plusieurs dossiers, le troisième lien, le tunnel, un paquet d'affaires. Et là, ta fin de carrière politique, possiblement, se termine de cette façon-là. C'est tu sais, je ne peux m'empêcher que d'avoir un petit peu d'empathie. Là. Ça doit être très difficile pour ces personnes-là. Mais que veux-tu? T'es ministre, t'as un job, puis t'as mis ta face sur un poteau, t'as donné ton nom. Ça vient avec des grandes responsabilités. C'est un grand privilège, ça vient avec des grandes responsabilités. Malheureusement, on peut pas dire qu'ils ont fait un travail qui a été excellent dans ce dossier-là, et ils en paient le prix aujourd'hui.
Vous allez l'entendre deux fois par semaine dans l'émission « On en jase le midi » avec Jeff Fortin, Pascal CV, Lambert Drainville. Merci pour cette excellente analyse de la commission Galant du dossier Nordvolt. Et on se reparle vendredi. Tu n'auras pas l'opportunité de parler avec Pascal. Par contre, elle va prendre un petit congé. Ce sera moi et Mathias qui seront présents vendredi. Merci Lambert pour ta collaboration à cette émission. C'est très, 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 très apprécié.
Hey, merci beaucoup. On se parle vendredi. Pascal, profite bien de ton congé.
Merci.
Merci Lambert. On se laisse, Pascal, avant de passer à la pause. Il faut absolument que je vous fasse jouer François Legault à son annonce de Nordvolt, comment il était heureux et fier. Et par la suite, on va parler d'un dossier, je sais, qui te touche énormément, c'est-à-dire cette fillette de Granby, rapport de la coroner Gamelle aujourd'hui. Donc, on se laisse avant la pause avec François Legault lors de son annonce Nordvolt.
Nordvolt va construire une usine.
C'est une journée extraordinaire aujourd'hui.
C'est cette belle musique.
C'est pour ça que je fais de la politique. On annonce le plus gros investissement manufacturier de toute l'histoire.
Il fait soleil, il fait beau, c'est encore une journée estivale. On est en plein mois de septembre à la rentrée, un mercredi d'une courte semaine. Ça vous tente peut-être de vous changer les idées ou encore pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, de dire « Ben non, moi j'extensionne la saison estivale parce qu'on a la température qui va avec. Le Maurice sur Grande Allée vous attend. » On est là, on est bondé, mais avec de la place pour vous parce que c'est avec ou sans réservation. Et en plus, on a une terrasse immense. Immense terrasse sur Grande Allée, la plus grande en fait pour vous accueillir avec un choix de cocktail, pas piqué des vers une carte de vin travaillée avec des importations qui vont assurément trouver preneurs et surtout des plats à partager, des plats italiens, des plats qui vont satisfaire tout le monde. Le Maurice s'est fait en sorte que si tu y vas pour l'apéro, pour dîner, pour souper, peu importe, tu vas être comblé. Tu te demandes où aller, si ça va convenir aux gens que t'amènes. Oui, c'est sûr. Le Maurice, à l'intérieur ou à l'extérieur, tu vas trouver ton fun. Et on a des chansonniers. Chaque soir, il y a de l'ambiance. DJ, chansonnier, pour une gang, en solo, au comptoir, tu vas te faire servir comme un roi, comme une reine. Si tu as envie d'un moment à toi, d'un moment en couple, d'un moment entre amis ou avec des collègues de travail, le Maurice sur Grande Allée.
Hola! Qu'est-ce que je peux vous servir?
Je pense...
Ah, Pascal CV qui me donne des cours de diction, j'adore! J'ai Anne Camel, hein, Pascal?
Tout le temps là pour toi.
Camel!
Parce que je t'entendais dire, Gamel.
Oh, je suis tellement content que tu me corriges. J'aime tellement me faire corriger. Puis d'ailleurs, merci à Sylvain, un auditeur hier, qui a écrit. C'était la première du caucus Iaccarini. Et il a écrit sur les textos en disant « Hey, Jeff, je trouve que tu coupes un petit peu trop Antonine. » J'aimerais ça que tu fasses attention. J'aime pas ça pour mes oreilles. Mais j'adore ça parce que justement, aujourd'hui, je l'ai mis en pratique. Donc, j'adore quand les auditeurs, quand toi, vous me passez des remarques. J'aime beaucoup tenter de m'améliorer. Et puis, non, mais je sais, ça venait de où avec Antonine. Puis c'est une technique que j'ai utilisée. C'est que j'haïs quand les politiciens partent sur une cassette. Donc, je les interromps. Tu sais, tu l'as vu tantôt avec Ruba Gazal, mm-hmm. J'ai répété trois fois. Ouais, mais vous êtes pour ou contre? Parce qu'elle était sa cassette de prière de rue. Ouais, mais attendez, c'est pour ou contre QS?
Je travaille pareil parce que, surtout, avec les politiciens. Parce que sinon, ils savent, ils connaissent la gamme. Puis ils font à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne savent pas, ils sont chronométrés. Ils ont un temps dans lequel ils doivent entrer dans la période de questions, leur discours. Souvent, le parti va vouloir l'écouler de A à Z. Donc, longue phrase, toute la présence.
Exactement, ça va être long.
Et ils sont formés en conséquence. C'est vraiment une formation politique, là, puis une déformation politique aussi. Puis en entrevue, s'ils veulent contrôler le discours, ils sont capables. Tu peux poser une question, Jeff, et pas du tout te faire répondre, parce que eux, ce qu'ils veulent dire, c'est un autre message. Puis ça, quand on travaille dans les médias, à un moment donné, on choisit. Ouais. On choisit est-ce qu'on les laisse aller, puis ils n'ont pas répondu à notre question. Ouais. Puis ils s'en vont avec la cassette.
Au début, j'étais comme ça, moi. Je les laissais aller dans leur cassette. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, « Hey, non, ça doit donc bien être plate pour l'auditeur. » Mais encore là, c'est des auditeurs qui m'ont passé le commentaire dans des sorties publiques qui me disaient, « Hey, il me semble les politiciens, ils sortent trois cassettes à Boulevard. » J'ai dit, « Ah ouais, mais on va les couper maintenant. » Mais là, hier, on dirait, vu qu'Antonine parlait de politique, je me sentais comme devant une politicienne.
Ouais, c'est que t'étais là, content. C'était ta première.
Ben oui,
t'étais fébrile.
Alors, merci beaucoup aux auditeurs. Merci à toi de me corriger sur des points comme ça. Et j'en profite, 418-971-1021. Kim qui nous écrit, pour être bien franc, je ne crois pas qu'aucune sanction ne sera appliquée à aucun ministre. C'est triste de ne plus croire à notre système gouvernemental. On pourrait-tu juste avoir la vérité dans tous les projets politiques dans lesquels nous, les citoyens, payons sur chaque achat? Puis honnêtement, vous avez été énormément à réagir justement à la chronique de Lambert Drainville. Je ne peux pas vous lire tous, mais continuez à interagir. Puis, ouais, en effet, Kim représente beaucoup de citoyens, malheureusement, Pascal, désabusés du système politique.
Mais il y a deux choses là-dedans. Honnêtement, si on savait tout, ça nuirait. C'est vrai que ça nuirait sur certains points, certains dossiers. Il y a des choses sur lesquelles on doit travailler de façon plus stratégique. Mais la transparence, quand ça devient un enjeu public et que ça devient un enjeu sur les finances publiques et que ça devient aussi un enjeu sur la gestion publique de certains dossiers qui ont été non seulement chaotiques, mais pas du tout menés à terme avec des dépassements de coûts. Puis on se rend compte qu'il y a un laxisme, on se rend compte qu'il y a une incompétence et on se rend compte assurément qu'il y a peut-être de la magouille. Là. L'enquête de l'IPAC ajoute l'élément peut-être magouilleux derrière ça. Là, on s'attend à avoir de la transparence, bien dur à avoir. La crainte que j'ai, Jeff, et c'est la même qu'on discute ensemble depuis quelques jours, pour moi, d'aller clouer au mur certains ministres pour faire en sorte que ça devienne le visage de l'échec d'un projet.
Ouais.
C'est dangereux parce que certains ministres peuvent à ce moment-là choisir de travailler pour le citoyen versus travailler pour leur premier ministre. Habituellement, quand tu es dans un parti, tu suis ton parti. Tu respectes ton premier ministre qui t'a donné une chance de te présenter. Tu as été élu. Puis en plus, si tu es rendu ministre, c'est une chance exceptionnelle puis c'est une opportunité politique et professionnelle extraordinaire.
Oui, et on en parlait hier avec Antonine, avec Geneviève Guilbeault, à quel point elle a toujours fait le travail difficile pour François Legault. Et là, que c'est François Legault qui va la dégommer.
Et ça, c'est un peu tannant parce que je me dis, oh, là, on vient d'ouvrir une porte extrêmement importante sur la vérité et la transparence. Geneviève Guilbeault le fait à travers un courriel pour l'interne. Donc, à un moment, vous l'avez vu dans la commission Galant, c'était une alerte à François Legault. Mais à un moment donné, période de questions, elle a ouvert une porte en disant, hey, là... J'espère que des gens qui nous écoutent et qui vont capter le message, si on commence à avoir des politiciens qui sont un petit peu bombes, des bombes là, au sein de leur parti, ça va peut-être être bon pour nous, même si ça va vraiment enrager les chefs de parti.
Vraiment. Petite note de tennis, Félix Auger-Aliassime, 25e au monde qui affronte le 8e. Alex de Minaur, c'est présentement au stade Arthur Ashe à New York, quart de finale US Open. Malheureusement, Félix a perdu la première manche 6-4, mais il mène 6-5 dans la deuxième manche. Et je vous rappelle que les Capitale de Québec, c'est ce soir que les séries commencent justement à New York contre les Boulders. Dossier du décès de cette fillette de Grimby en 2019. On veut faire un parallèle, moi et toi, Pascal, entre ce qui était ressorti de la commission Laurent et aujourd'hui le rapport de la coroner Kamel.
Jeanne Kamel, qui est très connue donc dans la région aussi. Oui. Elle a piloté des dossiers qui nous ont impliqués, entre autres avec Rosalie Gagnon dans le temps.
Exactement. Et là, tu veux commencer le tout avec une citation justement que tu avais sortie là, de la commission Laurent au départ.
Oui, commission Laurent qui, en 2019, fait suite à ce décès de la jeune fillette de Grimby. On décide que là, c'est le bout de la marde, on va le dire comme ça. Et il faut brasser la cage de la DPJ. Et pas juste des intervenants, et surtout pas des intervenants, mais plutôt de de la structure de la DPJ. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas écouté les gens sur le terrain? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne fonctionne pas et qu'on n'est pas capable d'aller plus loin? Madame Laurent, Régine Laurent, de son nom complet, en a fait une commission et ils ont épluché des rapports d'enquête. Ils ont travaillé en collaboration avec Madame la coroner Jeanne Kamel, qui est en fait celle de l'actualité d'aujourd'hui. Et on revient sur la formation des gens à la DPJ. Régine Laurent en avait jasé avec nul autre que François Legault dans son podcast Feu podcast qui avait parti après la pandémie.
Oui, c'est
pour s'adresser
vrai, ça avait
aux gens.
Été sa première invitée.
Et je me suis toujours demandé si ça n'avait pas été écourté parce qu'il y avait eu une Régine Laurent qui était venue s'asseoir puis qui avait posé des questions cruciales.
Oui, elle avait été très, je vais le dire comme ça, très dure avec le premier ministre à ce moment-là.
Alors pour les clips, on va y aller avec celle de la formation.
Magnifique, on y va avec ça.
J'ai étudié, mais j'ai eu une heure sur la loi sur la DPJ. Alors, elles se sentent démunies et c'est une loi qui est très, très intrusive. Ouais. Alors, elles se découragent. Puis là, elles quittent la DPJ puis elles s'en vont ailleurs dans l'établissement.
Une heure sur la loi sur la DPJ dans mon parcours scolaire qui est 3 ans si on fait la technique et 4 ans si on fait le bac?
C'est très peu. Puis tu sais, Jeff, des dossiers de DPJ, là, j'en ai fait un puis un autre dans ma carrière. Puis ce qui revient souvent, c'est à quel point les intervenants se sentent leurrés là-dedans. T'arrives des fois, tu finis tes études, automatiquement, t'as personne, t'as pas de mentor parce qu'on a une pénurie importante. Puis on t'envoie gérer de la détresse humaine, pour beaucoup, de l'enfant et de l'adulte qui veulent pas de la DPJ dans leur vie parce que ça vient peut-être des fois avec un retrait de cet enfant-là. Donc c'est super difficile et émotif. T'as 20, 21 ans, 22 ans, on t'envoie faire des rapports quand on n'a jamais
non,
fait
ça
un
a pas de sens.
Seul, puis gérer ces dossiers-là. Madame Laurent aussi avait pris la parole sur tout ce qui était parler aux gens du terrain, ce qui est normalement le jour de la marmotte quand on parle du gouvernement puis des problématiques dans les ministères. Est-ce qu'on va vraiment au bout de la ligne, puis c'est le chaînon par excellence? Madame Régine Laurent disait qu'il faudrait peut-être plus les écouter.
Et là, la chose de base que je me permettrais de vous dire avec beaucoup de respect, parler aux monde qui sont sur le plancher. C'est ce qui a manqué beaucoup, beaucoup au cours des réformes, c'est que ça s'est éloigné du monde qui sont sur le plancher. Elles en ont des solutions. C'est du monde de cœur. C'est du monde capable de faire des compromis. Alors, je dirais quasiment par unité de soins qu'il faut regarder comment on peut réorganiser les corps de travail. Et il faut, en contrepartie, que les gens... que les employeurs respectent leurs paroles. Si on...
C'est fou. Oui. Domaine de la santé. On a créé Santé Québec. Les gens disent, mais non, c'est pas Santé Québec qu'on a besoin. On a besoin que vous nous consultiez, nous, sur le terrain. Ça va pas bien en éducation. Qu'est-ce que les profs, les directeurs disent? Hey, parlez-nous. On va vous le dire. C'est quoi qui fonctionne pas? Même principe à la DPJ.
Oui, puis tu sais, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que t'as pataugé dans bien des domaines, Jeff, puis t'as pataugé en tant qu'employé, en tant que gestionnaire. T'as fait les deux. Parfois, le gestionnaire est vu comme la personne qui est le juge. Hein? Le juge de la bonne décision, le juge du où est-ce qu'on s'en va, le juge du si on le fait, si on le fait pas. Dans tout ce que j'entends, dans l'analyse qu'on peut en faire, des fois, je me demande si un gestionnaire, ça ne devrait pas être une courroie de transmission versus la personne qui va aller trancher. Je comprends que des fois, il faut avancer. Il y a aussi le budget entre ses mains et tout ça. Mais les gens sur le terrain ont souvent beaucoup à dire et ont souvent des solutions et des problématiques très concrètes à adresser. Si on ne descend pas puis on ne les considère pas puis on y va selon ce qu'on pense en tant que gestionnaire, dont dans ce qu'énumérait Mme Laurent, on passe à côté de quelque chose.
La meilleure façon de se planter dans un projet, c'est de ne pas impliquer tes employés. Moi, je me souviens, c'est une anecdote au RTC, quand j'ai géré justement la transformation du parcours 60 en parcours 803, j'étais responsable de l'exploitation du service et j'ai impliqué des chauffeurs d'autobus dans le comité. Et les chauffeurs m'ont dit, « Hey, sais-tu quoi? T'es le premier à impliquer des chauffeurs dans un comité. » Ben, je voyais en dans le crime. C'est vous autres qui êtes sur le terrain et qui chauffez le parcours.
Moi,
j'espère
je le fais pas,
donc
que
je vais vous demander ce qui va et ce qui va pas. C'est toi qui le fais tous les matins.
Puis c'est comme ça que tu deviens un meilleur gestionnaire, tu sais, au bout du compte. Je pense
c'est
que
et c'est comme ça que tu réalises aussi des choses.
Ben oui. N'importe quel gestionnaire qui se met dans la peau de ses employés, qui va faire quelques journées dans le travail que la personne fait, va peut-être faire oups, là, moi, je pensais que c'était réalisable. Je pensais que la liste de tâches était une chose, mais beaucoup d'intervenants nous disent que quand ils se lèvent le matin, s'ils ont 7 priorités à voir côté enfant, ça se peut que ça pète ailleurs cette journée-là. Puis que ça soit une urgence, il faut aller à l'hôpital, peu importe. Fait que là, tout vient de tomber. Tu ne peux pas aller voir tes 7 enfants, ce qui est énorme en passant
ben
la
oui,
journée.
Ce qui est énorme. Mais ce qui est trop. Là.
Exact. Puis peut-être que ta position numéro 6 dans ta liste va rester 6, 7 et toujours reculer comme ça. Ce qui fait en sorte qu'un enfant qui va peut-être être oublié et que ça va finir en dossier tragique, tu sais. Bon,
en effet,
ça, c'est souvent évoqué.
Comme
et je termine avec une prise de parole de Mme Laurent à ce moment-là qui parle de la discrétion professionnelle, du devoir de confidentialité, du travail en silo, chose que Mme Jeanne Kamel, coroner, disait ce matin.
Oui.
Les gens travaillent en silo. Hey, il y a quelques années, on en parlait dans la commission, Laurent.
L'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour sous le couvert de la confidentialité. Moi, ça m'enrage. Comment ça se fait qu'une enseignante n'était pas au courant qu'un enfant avait appris la veille qu'il allait changer de famille d'accueil? Fait qu'il arrive à l'école, il est tannant comme... Mais là, okay, il est puni. Fait qu'il est doublement puni. Mais si on avait averti l'enseignante ou le psycho-éducateur, cet enfant-là, ça se peut qu'il n'aille pas bien ces prochains jours, il veut changer de famille d'accueil. C'est une confidentialité bienveillante pour l'enfant.
Imagine, on travaille en saut. Commission Laurent, c'est quand? C'était quelle date? Rappelle-moi.
Ça s'est échelonné, je rappelle.
Je
m'excuse,
je voulais pas te prendre
non,
en
c'est correct,
défaut. Là.
Je me souviens à quel moment.
Mais tu peux le retrouver. En attendant, je vais faire jouer justement le constat de la coroner Kamel.
2020, on commence.
Donc, écoutez son constat aujourd'hui.
L'un des points cruciaux révélés par cette investigation est la faiblesse des échanges entre le réseau éducatif et celui de la santé et des services sociaux. Le plan de services individualisés intersectoriels censé favoriser une coordination étroite a été peu utilisé. Des rendez-vous manqués entre le médecin de famille, l'école et la DPJ ont fragilisé le suivi, réduisant l'efficacité des interventions. La DPJ a été sollicitée à plusieurs reprises, mais les interventions manquaient de continuité. Les fréquents changements d'intervenants ont empêché la création d'un lien stable avec l'enfant et sa famille, indispensable pour une intervention efficace. De plus, des périodes prolongées sans visite à domicile ont limité l'évaluation des conditions réelles de vie, masquant ainsi des signes aggravants. Aucune visite spontanée n'a été faite dans le milieu familial, ce qui est problématique au regard des directives qui imposent une présence au minimum mensuel. Les intervenants des différents organismes ont souvent été exclus des étapes clés d'évaluation, ce qui a freiné la communication et la concertation. Par ailleurs, les règles strictes de confidentialité, bien qu'importantes, ont parfois été un obstacle à la transmission d'informations cruciales. Un besoin urgent de créer un système de liaison plus intégré entre les différentes instances apparaît donc clairement.
Donc, tu vois, tout le monde a travaillé en silo. Mm-hmm. On n'a pas considéré certaines partie mm-hmm. comme les organismes communautaires qui travaillaient avec cette jeune fillette-là. Et finalement, ben, malheureusement, c'est le drame qui s'en est suivi. Et Vincent qui nous écrit au 418-971-1021, c'est terrible cette histoire-là. Mais hein, que c'est terrible, il faut que ça change, on n'a pas le choix.
Moi, je te disais au début de l'intervention qu'on a attitré à Mme Régine Laurent cette commission-là après le décès de la fillette de 7 ans parce que ça avait pris d'assaut le Québec en entier. T'sais. Mais la petite Rosalie Gagnon, qui était dans une benne à ordures, c'est aussi la coroner Jeanne Kamel qui avait travaillé là-dessus. Elle connaît la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, la manière dont on fait les choses. Puis ça reste que son rapport du coroner, c'est pour ce décès-là aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est tellement entrecoupé par la commission. Pourquoi est-ce que à ce jour, on est encore dans une recommandation d'une coroner qui est sensiblement, si ce n'est pas un copier-coller de celle de Mme Laurent.
Oui, c'est pratiquement un copier-coller. C'est ce qu'on voit.
C'est ce qu'on vient de
justement,
voir, oui.
On a fait jouer tout à l'heure avec Antonine. C'est la faute de tout le monde. On entend bien ça de la commissaire Laurent. On l'entend très bien également de la coroner Kamel. Donc, on devra justement réajuster le tir là, du côté du gouvernement du Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci à Steve qui, par texto, nous écrit « Bravo pour votre show. Vous êtes le meilleur duo-trio. » Oui, en effet, parce que dans le trio, il faut rentrer Antonine Iacarini qui est avec nous du lundi au jeudi. « D'informations en ville. Toujours pertinent. Longue vie à On en jase. Hey, » c'est-tu pas le fun d'avoir de la belle rétroaction positive comme ça?
Oui, puis si vous avez des enjeux qui vous concernent là, quotidiennement, puis c'est pas nécessairement ce dont M. Legault parle, lui, dans ses journées, vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis de vous considérer.
Exactement. Pascal, il reste un petit 2 minutes 45 à cette émission-là. Dis-nous donc ce qu'on a surveillé dans l'actualité pour cet après-midi.
Oui, bien, c'est sûr que la commission Galant nous amène tous les yeux, tous les oreilles, en fait, parce que ben, tout le monde prend un peu d'assaut son commentaire là-dedans. Mmh. Si on en fait un genre d'état demain, je vais vous ramener en ce moment à ce qui se passe dans la ville de Québec, Sam Ahmad, qui a utilisé encore des images de New York pour illustrer la ville de Québec. Je dis encore parce que qu'on se rend compte que finalement, dans son plan, sur son site web, ben, c'est souvent des images d'ailleurs et ça crée un genre de perturbation dans la crédibilité.
Mais là, je fais un parallèle, là. Il vient d'annoncer, parce que c'était à 1h30, Hugo Langlois comme candidat. Hugo Langlois, là, c'est un gars de technologie. Là. Il va gérer ça, là, son Moses des Moses de médias sociaux.
Je ne sais pas si ça sera dans ses tâches. Mais vois-tu, il y a un communiqué qui vient d'entrer dans les dernières minutes. C'est là où je m'en allais, parce que le chef de Leadership Québec et candidat à la mairie de Québec, ça c'est sa mamade, a annoncé ses candidatures. Pour son équipe, ce qu'on sait, c'est qu'en vue des élections municipales de novembre prochain, on ajoute Lydie Pince-Main du côté de Les Saules, okay. Les Méandres, Vicky Lépine dans Cap-au-Diamant et on en parlait, Hugo Langlois dans Vanier du Berger. Sa maman a dit que ce sont trois candidatures qui incarnent une vision pour Québec, une ville qui remet les citoyens au centre. Et je cite M. Hamad, Lydie apporte une expertise solide en gouvernance scolaire, Vicky une connaissance fine de l'administration publique et du quartier Saint-Jean-Baptiste. Et Hugo, c'est un leadership rassembleur forgé par 20 ans d'engagement médiatique et communautaire. Il dit ensemble, ils veulent redonner de l'élan à leur quartier pour mieux faire avec Québec. Donc, on voit que c'est trois domaines, trois champs complètement différents qui se rassemblent.
As-tu allumé sur Vicky Lépine? Le nom?
Vas-y.
L'épopée du salut nazi au conseil de ville, c'est Vicky Lépine. Alors, sa maman est allée directement piger une candidate qui en avait gros sur le cœur contre l'administration Marchand.
Ça va peut-être sortir dans les prochaines heures.
Cette campagne électorale-là, si on pense qu'elle est sale, elle va être encore plus sale.
Ben là, peut-être que ça va bien se faire, mais c'est sûr, ça va ruer dans les brancards. Elle est reconnue pour son engagement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Elle est là depuis 20 ans, en fait, dans Saint-Jean-Baptiste.
Ah, oui.
Puis on sent que c'est très
c'est
chaud.
C'est une candidate
là, hein.
vraiment de terrain. Je pense qu'on va avoir la chance d'en parler demain avec énormément de plaisir. C'est déjà tout pour nous. L'émission On en jase le midi avec Jeff Fortin, Pascal CV et les excellents chroniqueurs dont Antonine Iaccarini dans le caucus Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30. On vous souhaite un excellent après-midi sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant. On se parle demain. Bon après-midi, guys. On en jase.